trois sortes de croyants. Prêché le 24 novembre 1963 dans le Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Inclinons nos têtes. Avec nos têtes inclinées et nos cœurs ouverts, je me demande combien parmi vous il y en a qui voudraient ne pas être oubliés dans la prière. Levez simplement la main en disant « Seigneur, souviens-toi de moi, ô Seigneur ». Et il y a sur ce pupitre de nombreuses demandes. Les mouchoirs en font foi. Cher Père Céleste, nous voici de nouveau rassemblés ce soir sous ce toit où déjà tu nous as rencontrés si souvent en nous manifestant ton amour. Alors que nous tâchons, dans notre misère spirituelle, de t'exprimer notre propre amour et notre reconnaissance avec tout ce que tu as fait pour nous. Ce soir encore, nous venons de nouveau à toi comme un peuple nécessiteux, car nous avons toujours besoin de toi. Aussi longtemps que nous serons sur cette terre, nous crierons à toi, car nous sommes engagés dans une bataille continue. Cette bataille fait rage, et tu nous as avisés, tu nous as mis en garde, car l'ennemi sera semblable à un lion rugissant. Il est lâché parmi le peuple, et nous pouvons le voir de tous côtés comme un lion rugissant et dévorant tout ce qu'il peut, parce qu'il sait que son temps est court. Mais nous avons un Père qui prend soin de ses tout-petits, et c'est vers toi que nous nous réfugions ce soir avec toutes nos demandes, Seigneur. Nous te prions de nous exaucer. Tous ces mouchoirs qui sont exposés ici, Père, signifient qu'il y a des malades quelque part dans le pays qui t'appellent et qui ont besoin de toi. Ils croient en toi et ils manifestent leur foi ici même en envoyant ces mouchoirs. Ô Dieu, permets que chacun d'eux soit guéri. Nous venons de constater il y a juste quelques instants, ici même dans cette salle, la puissance de ton pouvoir en redonnant instantanément la mémoire à un amnésique qui avait tout oublié. Jour après jour, nous voyons ta glorieuse puissance se manifester parmi les malades et dans la révélation des secrets du cœur. Tu dévoiles à ce peuple ce qui ne va pas, tu le remets dans la bonne voie. Nous te remercions, Seigneur Dieu, car cela est impossible à l'homme. Personne de nous n'est capable de connaître comment tu peux révéler la cause même, sa manifestation et son origine. Cela t'appartient, Père. Nous savons que la parole sonde le cœur et discerne les pensées et les intentions de ce cœur. Aussi, nous te remercions pour cela. Et en ce moment, Seigneur, nous croyons que tous ces amis qui inclinent leur tête pensent à toutes ces choses et que c'est le Saint-Esprit qui est en train de leur parler. Nous te demandons de répondre favorablement à leur requête. Seigneur, sauve celui qui peut être sauvé, et que les perdus puissent entrer ici et être sauvés. Nous te sommes si reconnaissants de voir ici cette grande pile de tissus humides, sachant que le tombeau liquide a été ouvert, et que pour beaucoup d'entre eux, le péché du vieil homme a été enseveli. Je t'en remercie, Père, qu'ils puissent marcher en nouveauté de vie le reste de leurs jours. C'est au travers du nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Bien, que le Seigneur vous bénisse et qu'il exauce la prière de votre cœur. Je crois que mon fils Billy a annoncé qu'il y aurait maintenant plusieurs présentations de bébés au Seigneur. Frère Neville le confirme, note de l'éditeur. Je vous demande de bien vouloir les amener ici pour qu'ils soient dédiés au Seigneur. Que les anciens s'avancent pour imposer les mains à ces petits amis pour le service de consécration. Nous tâcherons d'être brefs. Nous pouvons apporter ces petits bijoux au Dieu qui les a créés, car ils veulent venir au Seigneur Jésus. Nous essayons toujours de leur ouvrir un chemin. Chacun ignore ce qu'apportera le lendemain. Mais ma mère avait l'habitude de dire, « Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui même. » C'est très juste, car vous ne savez pas ce que demain vous réserve. Mais nous savons qui est le maître de ce lendemain.
Frère Branham dirige le service de dédicace pour plusieurs bébés, note de l'éditeur.
Ma femme a toujours envié ce privilège que j'ai de tenir dans mes mains ses petits-enfants. Elle aime les tenir, moi également, mais je crains toujours de les briser. À les voir, ils paraissent si doux et si délicats, mais vous savez, en réalité, ils sont plus résistants que nous ne le pensons. Bien, je vous ai dit que je devais m'absenter, et il ne me reste plus que 35 minutes. Il va falloir me dépêcher, n'est-ce pas? Je ne désire pas me méjuger, ni dire rien de faux, mais je dois avouer avoir plus de difficultés maintenant que par le passé à remplir mon ministère. Après avoir gravi la route, nous ne sommes plus aussi actifs que dans le passé, savez-vous? Les kilomètres deviennent de plus en plus difficiles à parcourir et quelquefois, je dois tenir 2 ou 3 réunions dans la même journée. Ce qui m'éprouve le plus, ce sont ces visions. Prêcher ne me fatigue pas. Je pourrais le faire tout le long de la journée. Ça ne me tracasse pas. Oh, mais ces visions. Dans mes entretiens, c'est ce dont ils ont besoin. C'est pour cela qu'ils viennent ici. C'est une chose qui ne se règle pas par la seule imposition des mains. Il faut connaître pour chacun d'eux la racine et le point de départ, quelle en est la cause, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils doivent faire pour en être débarrassés. Maintenant, la réunion commencera mercredi soir à Shreveport en Louisiane. Et si vous avez des amis dans cette région, pourquoi ne pas les aviser et leur demander d'y assister? Je pense que cela commencera au tabernacle de la ville, à moins que pour disposer d'un plus grand nombre de places, ils utilisent l'auditorium s'ils peuvent en disposer. Pourtant, ils disposent dans ce tabernacle de balcons à l'étage supérieur de la grande salle proprement dite et même d'un grand sous-sol. Mais s'ils estiment cela insuffisant, il se peut qu'ils préfèrent disposer de l'auditorium qui se trouve juste de l'autre côté de la rue. Je ne me rappelle pas le nombre de places disponibles, bien que j'ai eu des réunions dans cet auditorium, mais je ne m'en souviens plus. Ce sera une convention annuelle. Il y a 3 ans, je suis allé là-bas et nous avons commencé un réveil dans le nom du Seigneur et depuis, il n'est pas encore terminé. Il se poursuit constamment de jour en jour. Les gens viennent, ils sont sauvés, ils sont baptisés et ils poursuivent ainsi comme cela avec le Seigneur. Tous vont là-bas, que ce soit les ministres ou les laïcs, tous y vont. Et aussi longtemps qu'il en sera ainsi, j'irai là-bas. Je les visiterai tout le temps, je leur adresserai quelques paroles, puis je repartirai de l'avant. Cette convention débutera mercredi pour se terminer dimanche. Le début sera consacré au petit déjeuner tenu par l'Assemblée des hommes d'affaires chrétiens. J'ai oublié le nom de l'hôtel où se tiendra cette première réunion. On nous l'indiquera sur place. Il s'agit d'un déjeuner des hommes d'affaires. Et je dis à tous ces hommes d'affaires qui se trouvent ici que la dernière fois que j'ai assisté là-bas à cette réunion, il y a eu de grandes bénédictions. C'était un grand moment. Le Seigneur y sauva un rabbin. Je n'ai plus en mémoire le détail de tout ce qui s'y est passé, mais ce fut un grand moment passé avec le Seigneur. Et le thème de ma prédication était l'alliance du sang. Voyez-vous, les Juifs sont au courant de cela, du sang. S'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de rémission, voyez-vous? Bien, maintenant, venons-en directement à la parole. Et je ferai de mon mieux pour tenir mon engagement auprès de vous concernant la durée de ce message. Maintenant, Dieu voulant, nous aurons un service ici même le 29 décembre, le dimanche après Noël. Si vous restez en vacances dans la région, ou même si vous êtes simplement de passage, nous vous invitons à y assister. Et s'il y avait quelque impossibilité à ce que nous soyons présents à ce service, nous ignorons ce que sera le futur, savez-vous, eh bien, s'il y avait pour moi un contretemps, pourquoi, vous tous qui habitez hors de cette ville, n'y viendriez-vous pas, telle la foule qui viendra de Memphis? J'aimerais entendre frère Ungreen chanter « Comme tu es grand ». Est-il parmi nous ce soir? J'ai toujours tellement à faire, je ne peux pas en venir toujours à bout. Mais mes amis, que Dieu vous bénisse. Et maintenant, revenons aux Écritures pour une petite lecture. Mes propres paroles peuvent être défaillantes, mais pas la sienne. Qu'alors Dieu vous bénisse pour votre présence durant la lecture de sa parole. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu que l'on écoute. N'est-il pas vrai? Lisons maintenant le 6e chapitre de Jean, du verset 60 au verset 71 inclus. Jean chapitre 6, verset 60 à 71. Et tout à l'heure, je voyais par la fenêtre le coucher du soleil. Je réalisais que la nature possède ses propres lois, et quand vient l'hiver, automatiquement par la loi de la nature, la sève de l'arbre descend dans les racines. Comme Job l'a dit, que tu me gardes caché dans la tombe, que tu me gardes dans cet endroit secret jusqu'à la fin de ta colère. Et nous y sommes, voyez-vous, frère Way. Job se souvenait de la nature de l'arbre, quand la vie descend dans les racines, qu'elle reste là jusqu'à ce que la colère soit passée. Oui, appelle-moi et assigne-moi une place. Voyez-vous, la nature a sa loi. Il existe une loi de la nature et il n'est pas question de la tourner. C'est une loi de la nature. Il existe aussi une loi de l'esprit. Impossible également de la contrer ou de s'y opposer. Cet après-midi, je m'entretenais avec un couple. Il vous est impossible d'annihiler quoi que ce soit. Un être humain ne peut rien anéantir. Il peut le démolir, mais non pas l'anéantir. Quelqu'un dira, si l'on brûle une feuille de papier, n'est-elle pas anéantie? Non, monsieur. La chaleur du feu n'a fait que séparer les unes des autres les particules chimiques composant le papier. Elles retournent en gaz là où elles se trouvaient à l'origine. Et si le monde durait assez longtemps, tous ces gaz, ces produits chimiques qui se trouvaient dans ce papier, pourraient de nouveau se combiner pour donner à nouveau une autre feuille de papier. C'est exact. Rien ne se perd. Tout se transforme. Vous ne pouvez rien anéantir. Si donc, il existe une résurrection pour toute chose et aucun anéantissement, il y a une résurrection des justes. Et nous sommes obligés de revenir. Tout ce qui est ici doit toujours être. On ne peut pas y échapper. Peu importe que vous soyez complètement brûlé ou incinéré, que vous soyez noyé ou que cela puisse avoir lieu, vous ne pouvez être anéanti. Rappelez-vous que chaque partie de votre corps existait déjà. Quand Dieu parla et créa le monde, il mit votre corps ici même dès cette époque. Et rien ne peut le faire disparaître si ce n'est Dieu. Tout revient de nouveau dans ses mains. Voyez-vous? Et il est l'unique, le un, le créateur. Il fut celui qui a fait la promesse. Ainsi, nous sommes sûrs qu'il existe la vie éternelle. Et nous avons maintenant l'assurance dans notre cœur que maintenant même, nous avons cette vie éternelle en nous. Cette vie qui durera toujours et qui ne mourra jamais. Mais très bien, revenons maintenant à Jean 6, 60 à 71. Commençons par le verset 60. Plusieurs donc de ses disciples, l'ayant entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'ouïr ?» Et Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient là-dessus, leur dit, « Ceci vous scandalise-t-il? Si donc vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. » Qu'a-t-il dit? Je suis la vérité et la vie. Mais il y en a quelques-uns d'entre vous qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il dit, c'est pour cela que je vous ai dit que nul ne peut venir à moi à moins qu'il ne lui soit donné du Père. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils ne marchaient plus avec lui. Oh, quelle tristesse! Ils n'avaient pu le comprendre. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller, voyez-vous? » Et Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous croyons et nous savons que toi, tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze, et l'un d'entre vous est un démon ?» Or, il parlait de Judas l'Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui était l'un des douze qui allait le livrer. Maintenant, si j'ai choisi ceci comme sujet pour ce soir, je ferai de mon mieux pour que cette demi-heure vous soit profitable. Pour cela, je vais vous parler de trois sortes de croyants. Je vous les ai souvent mentionnés, mais j'ai pensé qu'un jour, je devrais vous prêcher sur cela. Ce sera donc cet après-midi même. Il y a donc les croyants, ceux qui font semblant d'être croyants, ou les soi-disant croyants, et les incroyants. Il y a toujours parmi nous un groupe fidèle qui se rassemble ici à chaque réunion. Partout où les gens se rassemblent, nous trouvons toujours le petit groupe d'assidus, et probablement il sera toujours avec nous jusqu'au retour du Seigneur. Mais je veux ce soir, pendant que je vous parlerai sur ces trois groupes, que chacun d'entre nous se rende compte à quel groupe il appartient. Rappelez-vous maintenant que si je parle en ce moment à cette église qui m'entoure de nouveau, je m'adresse également au monde entier. Voyez-vous, dans toutes les parties du monde, toutes ces bandes enregistrées seront diffusées. Maintenant, je vais vous parler de ces trois différents types de croyants. Mon sujet se rapporte à trois catégorie de croyants. La première catégorie, les véritables croyants. La seconde catégorie, les soi-disant croyants. La troisième, les incroyants. Voyez-vous? Le premier groupe dont nous aimerions parler concerne le vrai croyant. Je pense qu'il doit être le premier, car c'est celui qui croit véritablement. Ce sont des croyants semblables aux apôtres qui croyaient en Jésus. Nous allons nous servir des Écritures que nous venons de lire. Le véritable croyant, le pur croyant, possède la foi qui vient en écoutant la parole de Dieu qui est Christ. Nous venons de le lire. Et maintenant, avez-vous remarqué la grande déclaration faite par ce croyant-là? Un croyant ne doit pas posséder la sagesse du monde. Il ne doit pas être une de ces personnes possédant l'instruction telle que la comprennent ces gens qui vous disent la posséder et que vous n'avez pas. Cet homme-là, qui a fait cette déclaration, la Bible elle-même nous apprend qu'il était à la fois ignorant et sans instruction. C'était Pierre. Il n'était pas connu pour être réellement une personne intelligente. Mais il est écrit dans Ésaïe 35:8, « Il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. » Cet après-midi, je m'entretenais avec un diacre de ces ponts qui enjambent cette nouvelle route. Je lui disais, aujourd'hui, il existe beaucoup de routes qui enjambent des baies et d'autres plans d'eau. Mais il existe une très grande voie qui relie la terre à la gloire. Elle s'appelle le boulevard du roi. Les impurs n'y seront pas admis, c'est vrai. C'est une route construite par Christ, notre Seigneur, qui relie cette terre à un autre pays. Et les impurs n'y passeront pas. Et Simon Pierre, cet homme sans instruction, d'un standing modeste, il a vu la parole de son âge totalement confirmée, car Dieu avait promis que dans ce jour-là, il y en aurait un qui s'élèverait pour être un prophète parmi eux. Simon avait eu du mal à le croire. Il y avait eu tant d'imposteurs qui se déclaraient le Messie. Mais quand il eut vu la pure et indiscutable parole de cet âge, et quand il l'eut entendu, il l'identifia aussitôt. Il était alors convaincu d'une façon indubitable qui il était. Et ce fut celui-là qui s'écria, « Seigneur, à quel autre irions-nous ? » À la question que Jésus lui posa devant cette foule, qui comprenait des croyants, des soi-disant croyants et des incrédules. Parmi tous ceux qui se trouvaient là, se trouvaient les trois catégories de croyants dont je vous parle. Celles qui se tenaient auprès de Jésus dans le chapitre de Jean, chapitre 6. Parce que Jésus avait prononcé ces paroles comme il devait les prononcer, son assemblée qui l'entourait fut ainsi séparée en trois groupes. Cela devait être fait. Jésus, pour tous ces gens-là, était un grand homme aussi longtemps qu'il guérissait les malades. Mais lorsqu'il parla de l'enseignement, de la doctrine, de la prophétie, alors la barre s'est séparée du grain pur. Voyez-vous? La barre, c'est une pellicule qui entoure le grain de blé. Ce n'est pas le grain. Elle ne peut être utilisée. Il n'y a rien en elle. Aucune vie en elle. Elle ne peut appartenir au grain lui-même. Mais le vrai croyant, c'est ce grain de blé pur. C'est le cœur de ce grain même. Notez-le bien. Pierre était personnellement convaincu que Jésus était bien le Messie. Il ne se souciait pas de l'opinion des autres, de tout ce qu'il pouvait dire, de tout ce que les prêtres disaient, de ce que l'Église prétendait. Lui, il était personnellement convaincu. Un jour, Jésus lui demanda, « Qui dit-on que je suis ?» Certains disent que tu es un prophète, d'autres disent que tu es l'un des anciens prophètes ressuscités, que tu es Moïse ou Élie. Jésus lui dit, « Et toi, je te le demande, qui penses-tu que je suis ?» Et Pierre lui répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui répondit, « Tu es béni, Simon, fils de Jonas, car la chair et le sang ne t'ont jamais révélé cela. Tu ne l'as pas appris dans un livre, dans un credo ou dans un catéchisme. C'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. » Voyez-vous? Voilà un pur croyant, révélation spirituelle de la parole. Puis Jésus lui a dit, tu es Simon, et sur ce rocher de la révélation, qui t'a appris qui je suis, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Voyez-vous, ce n'est pas étonnant que Simon ait répondu à Jésus qui lui demandait, désires-tu t'en aller toi aussi? À qui donc irions-nous? Et lui dit encore, non seulement tu as les paroles de la vie, mais tu es le seul à les posséder. En effet, Jésus n'avait pas seulement les paroles de la vie, mais il était la parole de vie. Il était la parole de vie. Et Simon le reconnut parfaitement. Et quand il le reconnut, cela consolida son espérance, car il lui fut révélé qu'il était cette parole vivante. Voilà ce que j'appelle un croyant véritable, authentique. Quand le Saint-Esprit, et non pas d'autres personnes, nous révèle directement la parole elle-même, et quand vous voyez que la parole est remplie et confirmée, alors l'Esprit de Dieu pénètre dans cet âge, afin que la parole destinée à cet âge soit pleinement manifestée. Comment un homme pourrait-il ne pas croire en Luther s'il n'avait pas connu cela? Luther était un réformateur. L'homme-esprit se manifesta à cet âge pour la réformation. Wesley fut également cet homme-esprit pour son âge. Il devait le croire, voyez-vous? C'était le messager destiné à cet âge de l'Église. C'est ce qui s'est exactement produit. C'était ce qui devait arriver. Vous aviez à le croire. Et nous voici maintenant dans l'âge de l'Odyssée. Et nous avons été enseignés par la Bible que dans cet âge, Christ serait mis hors de son Église et qu'il frapperait même à la porte pour essayer d'y entrer à nouveau. Alors, quand nous voyons de nos jours ce qui se passe actuellement, nous savons dans quel âge nous vivons. Nous sommes tout simplement à la fin de l'histoire du monde. Nous tournons la dernière page du livre. Un de ces jours, la dernière ligne du livre va être écrite. Le livre se refermera, tout sera fini. Et alors un grand drame va se jouer. Les acteurs sont tous prêts à jouer leur rôle. Vous pouvez voir leurs préparatifs. Vous pouvez voir le diable se manifester. Vous pouvez voir le scélérat de la pièce, comment il entre en scène avec ses cajoleries en vue de vous tromper. Mais vous pouvez également voir les préparatifs de l'épouse qui se tient prête pour le départ, pour l'enlèvement. C'est une grande scène. Vous pouvez voir la présence de Dieu confirmant et exécutant le grand drame qui a été prédit dans cette Bible et qui va se dérouler. Oh, quel temps vivons-nous, le temps le plus glorieux. L'homme de tous les âges a soupiré pour ce temps-là. Les prophètes des temps anciens ont soupiré pour voir cette heure, mais ils n'ont pas eu ce privilège. Alors, il y eut un croyant authentique, car il l'a vu, il a cru. Nous sommes pleinement persuadés que tu es le Christ, le Messie, la parole de Dieu pour ce jour-ci. Et nous croyons tout cela. Voyez-vous, Pierre était un croyant authentique, un pur croyant. Avant de passer à la catégorie suivante, passons en revue quelques-uns des croyants véritables. Prenons le prophète Noé. C'était peut-être un fermier, et en ces jours-là, l'Église était vraiment en plein déclin. Il y avait beaucoup de moqueurs et de religiosité. Et Dieu s'adressa à Noé, et il lui ordonna de construire une arche. Noé n'a jamais demandé d'explications à Dieu. Il croyait que c'était la parole de Dieu qu'il avait entendue. Il en était persuadé, et il a commencé aussitôt à se mettre au travail. Voilà un croyant authentique, un vrai croyant. Ne vous étonnez pas de cela. Quand vous êtes totalement convaincu, il en est toujours ainsi. Dans tous les cas, la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Si vous en êtes arrivé à ce point de la foi, peu importe ce que peut dire de mauvais le médecin qui vous soigne, ce que cet homme peut vous indiquer, c'est le diagnostic de votre maladie. Et encore, il est limité par ses connaissances et par l'outillage dont il peut disposer. Et là où il ne peut se trouver, c'est lorsqu'il vous dit qu'une fois la mort établie, il ne peut plus rien pour vous. Mais vous, vous priez, et vous tenant tourné vers le futur, vous pouvez voir de nouveau un homme ou une femme en bonne santé. Voilà tout. C'est tout simplement cela. Vous marcherez de nouveau en pleine confiance parce que vous le croyez par la foi. Dieu l'a promis. Et vous savez que cela se réalisera ainsi. Il en est comme cette petite femme atteinte du cancer du poumon. Il n'y avait aucun doute dans son esprit. Elle serait guérie. Le cancer était mort et il s'en alla. Voyez-vous? C'est cela la foi. Vous le croyez. Il en est comme de ce père qui, il y a quelques minutes, m'a apporté dans cette salle son petit enfant. Il était amnésique. Il avait fait une chute. Il avait perdu la mémoire. Il ne pouvait se rappeler de rien. Quelques instants après avoir prié pour lui, je lui ai demandé son nom. Il me l'a dit. Quel âge il avait? Il me l'a dit. Il était redevenu normal autant qu'un petit garçon peut l'être. Voyez-vous? Il croyait seulement. Et quand Dieu dit une chose, cela doit se passer ainsi. Noé croyait Dieu et Noé fut considéré comme un croyant. Et quand l'Église était en captivité à Babylone, Daniel croyait Dieu. Et quoi qu'il puisse dire ou proclamer, Daniel s'en tenait à la parole. Il ne tenait aucun compte de ce que les autres disaient. Vous ne prierez pas à votre Dieu que cette statue d'or, ce saint homme ou qui que ce soit d'autre. Non, Daniel laissait tout cela de côté. Il avait entendu Dieu parler, car c'était un prophète et la parole vint à lui. Et quand Salomon dédia le temple de Jérusalem à l'Éternel, il dit, dans 1 Roi 8, versets 38 et 39, « Si un homme, si ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, exauce-les des cieux du lieu de ta demeure, s'il étend les mains vers cette maison. » Et Daniel croyait Dieu. Il croyait la parole. Il était un croyant authentique. Voilà pourquoi les lions n'ont pas pu le dévorer. Ils n'ont pas pu le déchirer, c'est vrai. Voyez-vous, il était un pur croyant, un véritable croyant, un croyant authentique. David fut également l'un d'eux. Il venait de sortir de l'enfance. Daniel ne faisait pas partie de l'Église moderne, pas plus que Noé d'ailleurs, pas du tout. Il croyait en ce que Dieu disait et il savait que c'était la vérité. Peu leur importait ce que le monde moderne pouvait dire. Eux, ils croyaient ce que Dieu disait. C'était la vérité. Voilà l'authentique croyant. Pierre et les apôtres crurent que Jésus avait la parole de vie et qu'il était la parole de vie. Moi-même, je crois la même chose aujourd'hui. Tout ce qui est contraire à la parole est faux, c'est la mort. Seule la parole est la parole de vie, et Christ est la parole. Revenons-en à David. C'était un drôle de gaillard. En premier lieu, il fut probablement mis de côté par ses frères, car il était de petite taille. Il n'était pas assez grand pour porter une armure. Il ne pouvait pas aller à la guerre. Il était trop petit pour cela. Cependant, il rejoignit les troupes en tant que croyant. Et quand il se trouvait dans le désert, surveillant quelques douzaines de brebis que son père lui avait confiées, sa seule arme était une fronde. Dans un pays où se trouvaient des lions, des ours et des loups. Et David commença à rechercher des pâturages verts protégés par l'ombre. Il savait ce que cela signifiait pour les brebis de reposer sous les ombrages et de pouvoir être allongé en pleine chaleur solaire. Il savait ce que signifiait une bonne rassade d'eau fraîche, car il a écrit dans le psaume 42, versets 2 et 3, « Comme une biche soupire après des torrents d'eau, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Voyez-vous, il a pleuré, il a prié, et un jour, un cas d'urgence se produisit. Un lion se saisit d'une brebis, et il l'emporta. David pense alors, « Le Dieu qui m'a fait supérieur au lion, voyez-vous ? » Alors il prit sa fronde, il la chargea d'un silex, le lion fut terrassé. Et si quelqu'un s'est approché d'un lion, et particulièrement d'un lion à la crinière imposante qui habite en Asie, en Palestine, il peut se rendre compte de la puissance de cet animal. Alors qu'une puissante carabine 300 Magnum peut difficilement abattre une pareille bête, David, lui, il l'abattait avec un caillou. Et si le lion blessé voulait se précipiter sur lui, David l'attrapait par la crinière et il l'achevait. Voilà la raison. Il savait de quoi il parlait. Il avait eu une expérience. Il avait pris Dieu au mot. Il avait fait le test de la parole. David n'était pas effrayé de Goliath. C'est un circoncis, c'est un croyant. Goliath s'avança et le maudit au nom de son Dieu. C'était un géant, il le dépassait de plusieurs coudées, c'était un homme de guerre, un véritable guerrier. La cotte de mailles qu'il portait sur lui devait probablement peser plus de 150 kilos. Son casque était immense et l'épaisseur du métal qui le composait avait plus de 3 centimètres. C'était un géant immense, portant une lance de 6 mètres environ. Un tel homme pouvait facilement brocher une douzaine d'hommes et les projeter aussi loin qu'il le désirait. Quel contraste entre Goliath et David. Goliath plastronnait, il se rengorgeait et il se glorifiait. « Vous voyez, cria-t-il aux Israélites, ce n'est pas la peine de faire couler le sang inutilement. Qu'un des vôtres vienne combattre contre moi, ce sera un combat singulier. Si je suis vainqueur, alors vous tous vous me servirez, et si vous êtes vainqueur, c'est nous qui vous servirons. Voyez-vous ? Oh ! Quand le diable croit vous posséder, il plastronne, il fait le fanfaron. Mais cette fois-ci, il est tombé sur le mauvais numéro. Il rencontra l'homme le plus petit du pays, celui qui avait les épaules tombantes. Il ne payait pas de mine. Mais David dit, « Avez-vous l'intention de me dire que vous, qui êtes l'armée du Dieu vivant, vous vous tiendrez là et que vous permettrez à cet incirconcis de Philistin de défier l'armée du Dieu vivant ?» Pourquoi était-il outré à ce point? Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que David était un croyant authentique. Tous les autres étaient des soi-disant croyants. Voyez-vous? Lui, c'était un pur croyant. Il poursuivit, « Si vous avez peur, moi j'irai le combattre. » Voyez-vous? Quel défi pour un petit individu tel que lui. Mais c'était un croyant. Et il a fait exactement ce qu'il savait que Dieu ferait. Quand le Philistin circoncis le maudit dans le nom de son Dieu, il apostropha ainsi, « Suis-je un chien pour qu'un petit gamin comme toi vienne me provoquer? Sais-tu que je vais t'embrocher à la pointe de ma lance, puis te pendre là-haut dans l'arbre où les oiseaux viendront te déchirer? Oh, quel terrible et horrible individu que ce Goliath !» Mais David lui répondit, « Toi, tu viens à moi avec une épée et une lance, et tu es revêtu de ton armure. Tu viens à ma rencontre au nom des Philistins. Mais moi, je vais à toi sans épée, sans lance et sans armure, mais je te rencontre au nom du Seigneur Dieu d'Israël. » Nous y voilà. Celui-ci est un croyant véritable. Sa foi en Dieu, voilà sa forteresse, voilà son bouclier. Voilà sa défense. Pour tout croyant, Dieu est sa défense. Peu importe les circonstances, peu importe l'opinion du monde ou de quiconque, Votre sécurité, c'est le Seigneur Dieu d'Israël. C'est cela. Le nom de Jésus-Christ est une tour forte. Le juste s'y réfugie et s'y trouve en sécurité. Proverbe 18:10. Votre défense, c'est Jésus-Christ. Chaque fois qu'il passe, nous savons ce qui doit arriver. Et pour abattre son ennemi, David savait qu'il devait le toucher au front, au défaut de la cuirasse du haut qui protégeait le visage de son adversaire. Cet espace était minuscule. C'est Dieu qui a dirigé lui-même le caillou lancé par David avec sa fronde. Le géant fut abattu. Voyez-vous, c'est Dieu qui l'a fait. Ainsi, nous voyons que David était vraiment un pur croyant. Venons-en maintenant à un autre croyant authentique, Abraham. C'était un Chaldéen de la ville de Ur. Il fut appelé à accomplir et à croire à quelque chose qui, à vue humaine, paraissait physiquement impossible. Mais il ne mit pas en doute la parole et la promesse de Dieu. Il s'y attacha et donna gloire à son Dieu. Quand il était un jeune homme, Abraham épousa sa jeune demi-sœur Sarah, qui avait 10 ans de moins que lui. Sarah était stérile. Et quand Abraham eut 75 ans, Dieu lui dit, « Sépare-toi des incroyants. Dieu exige toujours une séparation. Sépare-toi des incroyants et marche avec moi, car je t'ai fait père de nombreuses nations, je l'ai déjà fait. » Et Abraham le crut, car c'était un croyant authentique. Il ne posa jamais la question suivante au Seigneur, « Mais comment vas-tu faire, Seigneur ?» Dieu a dit qu'il le ferait, cela doit suffire. Un mois après cette promesse, Abraham demanda à Sarah, qui avait passé le temps de la ménopause, « Rien de nouveau ?»« Rien du tout, » répondit sa femme. Mais Abraham le croyait toujours. Et 25 ans plus tard, quand Abraham avait près de 100 ans et Sarah 90 ans, il n'y avait toujours rien de nouveau. Mais Abraham croyait toujours. C'était un croyant. Ce n'était pas un soi-disant croyant. À 100 ans, Abraham était encore plus vigoureux qu'à 75 ans. Il croyait Dieu, et cela lui fut imputé à justice, car il était un croyant authentique. Dans quelques instants, vous pourrez déterminer vous-même à quelle catégorie de croyants vous appartenez. Et maintenant, que fit alors Abraham? Il était inébranlable dans la promesse de Dieu, le Dieu des impossibilités. Que penseriez-vous d'un homme âgé de 75 ans, marié à une femme de 65 ans, qui irait trouver un docteur pour lui dire « Réservez une place à la maternité pour ma femme, elle attend un bébé. » Puis 25 ans plus tard, le même couple se présente en disant « Docteur, la maternité est-elle toujours ouverte ?» Voyez-vous, oh, cela vous semblerait drôle, vos espoirs seraient bizarres aux yeux du monde, mais lui, Abraham, c'est un croyant véritable, quelle que soit l'étrangeté de sa promesse, car la Bible nous dit qu'il était pleinement convaincu que Dieu était capable d'accomplir ce qu'il avait dit pouvoir faire. Voilà ce que devrait être le but de chaque croyant cet après-midi. Dieu est capable d'accomplir chaque parole qu'il a dit devoir tenir. Peu m'importe l'opinion des dénominations, le temps des miracles est passé, tout cela c'est de la télépathie, c'est un diseur de bonne aventure. Moi, je m'en tiens à la parole. Je crois toujours que le fusil, dont le viseur est parfaitement orienté vers la cible, touchera toujours son objectif. Je crois que le croyant qui fait corps avec la parole de Dieu agira toujours suivant ce que la parole a promis. Et il le fera de nouveau, j'en suis convaincu. Quand nous voyons l'âge dans lequel nous nous trouvons, les événements prévus pour cet âge doivent s'accomplir. C'est la raison pour laquelle je crois fermement que lorsque cet époux sera appelé, comprenant tous ceux qui sont élus et inscrits dans le livre de la vie, qu'il se produira venant du ciel un son de trompette, qui provoquera un tel baptême du Saint-Esprit dans cette épouse, qu'il l'enlèvera de la terre dans la grâce de l'enlèvement. Dieu l'a promis. Que m'importe ce que les astronautes ont pu dire, que m'importe les millions de kilomètres qui ont pu être parcourus dans l'espace, ce que je sais, c'est qu'il existe un ciel où vit Jésus-Christ en personne. Il viendra sous la forme d'un homme pour recevoir son épouse, l'Église du Christ. Qu'importe si cette histoire vous paraît bien vieille, mais c'est toujours la vérité. Dieu l'a dit, et c'est ce que croient les véritables croyants. Dieu a dit, je suis le Seigneur qui guérit toutes tes maladies. Je suis Dieu et je ne change pas. Amen. Dieu est la parole. Et si Dieu ne change pas, comment la parole pourrait-elle changer? Voyez-vous, je suis Dieu et je ne change pas. Les Écritures le disent et Dieu l'a dit lui-même. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, immuable. Et la parole a été faite chair en Jésus-Christ et elle a habité parmi nous. Amen. Oui, monsieur. Dieu a suscité des corps ici-bas, tels que ceux de Moïse, Ézéchiel, Jérémie, Élie, Ésaïe, et dans ces corps, sa parole habitait temporairement. Mais la plénitude de la parole fut manifestée dans cet homme, Jésus-Christ. En lui habite toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2:9. En Jésus, Dieu a été fait chair. Je crois cela, chaque mot. Job fut aussi un croyant authentique. Quelquefois, les croyants sont mis à l'épreuve, non pas une fois de temps en temps, mais tout le temps, continuellement. Car chaque enfant qui vient à Dieu doit être châtié, éprouvé, éduqué. Rappelez-vous les épreuves de la persécution, les routes poussiéreuses, le soleil brûlant, mais la loyauté de leur cœur triomphait de ces choses matérielles, car chacun était prêt à passer dans le moule. Les enfants de Dieu sont modelés correctement sur sa parole, car ils sont des exemples vivants, des témoins vivants, et la parole de Dieu vit au travers d'eux. Voyez-vous, l'épreuve commence par vous secouer, puis elle vous met à plat pour voir où vous vous trouvez. Voyez-vous, chaque enfant de Dieu doit passer par l'épreuve pour être testé. Job passa au travers des épreuves et des tests. Il perdit ses enfants, sa fortune et sa santé. Les membres de l'Église vinrent alors et ils l'accusèrent d'être un pécheur camouflé. Ils essayèrent de le calomnier. Mais cependant, Job ne voulut pas les écouter. Il savait qu'il avait rempli les engagements vis-à-vis de Dieu. Il savait que Satan n'avait aucune chance de le tenter. Il savait que c'était le diable. Et aussi longtemps que Satan put lui faire croire que sa maladie était l'œuvre de Dieu, il tenait Job sous sa férule. Mais quand Job eut un jour la révélation que cela ne venait pas de Dieu, il comprit qu'il passait par l'épreuve pour être fortifié. Ce n'était pas Dieu qui agissait, c'était Satan. Il en est de même aujourd'hui. Satan essayera de vous convaincre que toutes ces épreuves qui vous accablent sont un châtiment que Dieu vous inflige. Il n'en est point ainsi, non monsieur, c'est Satan qui fait cela. Et Dieu le permet pour vous tremper, pour que vous puissiez vous rendre compte si vous êtes lié à ce monde, aux choses du monde, ou bien si vos trésors sont dans le ciel. Car là où se trouve votre trésor, vous y êtes aussi. Votre cœur se trouve là où sont vos trésors. Mais bien que passant par l'épreuve, Job a dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. Au dernier jour, il se tiendra sur la terre, bien qu'après ma chair sera détruite par les vers. » Avez-vous remarqué? Les vers étaient déjà en lui. Votre ver est déjà en vous. Vous êtes enfermé dans un écrin scellé. L'air n'y pénètre pas, mais les vers sont déjà dans votre corps. Ils sont déjà en vous. Ils sont prêts à travailler à n'importe quel moment. Rappelez-vous le roi Hérode. Il expira dans la rue, rongé par les vers. Actes 12-23. Les vers étaient déjà en lui. Et Job a dit, « Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. » Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Job 19:26. Amen. Le corps ne peut être détruit. Bien qu'il soit rongé des vers, il se lèvera à nouveau. Je le verrai. Lui, Dieu, mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Job 19:27. Pourquoi Job a-t-il dit cela? Parce qu'il était un véritable croyant. Dans les épreuves, il était un croyant. dans la persécution, il était aussi un croyant. Il était un croyant authentique. Joseph, lui aussi, fut un autre croyant authentique. Étant ce qu'il était, il n'y pouvait rien. Il était un prophète. Dieu fit de lui un prophète. Il ne voulait pas personnellement être différent de ses frères, mais il était quand même différent. Dieu le fit ce qu'il était. Personne d'autre ne pouvait prendre sa place. Personne ne peut prendre votre place, quelle que soit votre position. Vous dites, je suis simplement une femme d'intérieur, une ménagère. Personne ne peut prendre votre place. Dieu, dans son grand plan divin, dans sa grande économie, vous a ainsi placé dans le corps de Christ parfaitement ordonné. Et personne ne peut prendre la place qui vous a été affectée. Comme j'aimerais prendre la place de Billy Graham. Chacun de nous, les prédicateurs. Mais nous ne pouvons pas le faire. Mais rappelez-vous, de même, Billy ne peut pas prendre notre place. Voyez-vous? Tous, nous avons une place bien déterminée. Certains d'entre nous sont des évangélistes, d'autres sont prophètes, d'autres sont docteurs, d'autres sont pasteurs. Quoi que nous soyons, ménagères, mécaniciens, fermiers, Dieu vous a placés à votre place. Voyez-vous? Et Joseph était un prophète. Il n'y pouvait rien s'il pouvait interpréter les songes. Il n'y pouvait rien s'il voyait des visions. Constatez combien il était droit. Peu lui importait que cela lui coûta l'affection de ses frères. Il était droit et vrai, car il croyait en ses songes. Il était persuadé que le songe concernant ses gerbes qui s'inclinaient devant lui, représentant ses frères, se réaliserait, parce qu'il croyait ce songe. Il était un croyant authentique. Bien. Ici, j'ai noté un verset de l'Écriture. Nathanaël était lui aussi un véritable croyant. N'est-ce pas vrai? Quand Nathanaël constata la réalité des faits qu'il avait vécus, son nom révélé par Jésus, qu'il était un Israélite sans fraude, la veille Jésus l'avait vu priant sous un arbre, Jésus le vit quand Philippe l'appela. Alors il fut un véritable croyant. Et parmi vous qui êtes assis ici, il y en a qui disent, c'est l'esprit du diable, le démon opère les guérisons divines. Voyez-vous? Ce vieux démon, il n'est pas encore mort aujourd'hui. Il croit que le démon peut opérer des guérisons divines. Mais Jésus a dit, si Satan peut chasser Satan, alors son royaume est divisé. Et un tel royaume ne peut pas subsister. Voyez-vous? Satan ne peut pas le faire, car Satan ne peut pas chasser Satan. Ainsi, Nathanaël était un vrai croyant. Et quand il vit la parole faite chair, confirmant qu'il était un croyant, il dit à Jésus, « Ô Rabbi, Maître, tu es le Christ, tu es le roi d'Israël. » Et il le crut. Quand la femme samaritaine le vit au puits, elle le crut. Elle était une croyante authentique. Il en est de même de l'aveugle Bartimée, de la femme qui toucha le bord de son vêtement. Chacun cria, avançait. Certains disaient à Jésus, « J'ai entendu dire que tu ressuscitais les morts. » Ici, il y en a un cimetière qui en est rempli. Allons, ah, vas-y maintenant, ressuscite-les, fais-nous voir un petit peu comment tu t'y prends. Voyez-vous, c'était le même démon qui a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se transformer en pain. C'était le même démon qui avait posé un bandeau sur les yeux de Jésus et qui le frappa sur la tête. Et alors qu'il passait le bâton à d'autres, il lui disait, maintenant, « Dis-nous qui t'a frappé, nous croirons en toi. » Voyez-vous, ces soldats se moquaient de lui. Mais rappelez-vous, Dieu est toujours présent sur la scène, voyez-vous. Il était là, à ce moment précis, toujours prêt à intervenir à tout instant. Alors Jésus leur dit, « Je pourrais parler à mon Père et sur le champ, il pourrait m'envoyer 12 légions d'anges. » Oh, que pourrait faire déjà un ange? Mais voyez-vous, à sa demande, il aurait pu recevoir 12 légions d'anges. Une légion, c'est 6 000 hommes. Mais Jésus avait une mission à accomplir. Il avait quelque chose à faire. Il devait la réaliser. Vous devez faire quelque chose de votre côté. Et de son côté, Dieu a quelque chose à faire pour vous. Vous pouvez avoir des maladies de cœur ou certains troubles. Vous pouvez avoir des désappointements. Mais est-ce que nous prions pour les écarter? Non. Seigneur, que je puisse les affronter. S'ils me sont destinés, donne-moi simplement la grâce de les surmonter. C'est tout. Regardez Bartimée l'aveugle. Il savait qu'on avait dit de Jésus, il est le prophète de Galilée, il est le fils de David. Nous le croyons. Ce sont des croyants qui ont dû lui dire cela. Nous le croyons, nous savons qu'il est le fils de David. Et Bartimée savait que s'il en était ainsi, il était la parole. S'il savait qu'il était la parole, il savait alors qu'il pouvait discerner les pensées du cœur. Aussi, s'écria-t-il à son approche, « Toi, fils de David, aie pitié de moi !» Les menaces de l'Église, les incroyants colportaient ceci et cela, mais cela n'arrêtait pas du tout Bartimée. Il disait, « Ô Jésus, toi le fils de David, aie pitié de moi !» Peut-être Jésus ne pouvait pas l'entendre, mais il savait qu'il avait crié. Il s'arrêta et il se retourna et devant lui, il y avait un vrai croyant. Il lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé !» Et aussitôt, il recouvra la vue. Marc 10, 52 et 53. Amen. Jésus dit la même chose à cette femme qui avait une perte de sang, parce que cette femme pensait en son cœur, « Si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. » Jésus lui dit, « Ta foi t'a sauvé. » Voyez-vous, elle aussi était une vraie croyante. C'est cette même foi qui a sauvé ici même, dans cette salle, William Doche l'autre jour. Il avait eu une attaque cardiaque et son cœur avait cessé de battre. C'était un homme de 90 ans. « Ta foi t'a sauvé. » Pourquoi ? Parce qu'il était un vrai croyant. Et aussi, le révérend Tom Kidd, qui se trouve ici même. Il est âgé de 90 ans environ. Quand il avait 79 ans, on le transporta à l'hôpital. Il avait un cancer à la prostate. Le docteur disait de lui qu'il n'avait aucune chance de s'en sortir. Mais ce matin-là, nous sommes allés le visiter. Ce petit patriarche était assis avec un grand châle sur les épaules et il frappait le sol avec sa petite canne. Il était hors de lui. Il disait à la vieille femme qui se trouvait près de lui et qui l'appelait sa grand-mère, « Tu parais aussi blanche que la neige. » Cependant, tout à coup, la puissance de Dieu se manifesta dans la chambre. Et aujourd'hui, il est parmi nous, ce soir. Il y a 10 ans de cela, il est en parfaite santé et le cancer a disparu depuis longtemps. Cet homme n'était pas un soi-disant croyant, mais un vrai croyant. C'est cela. Il prie Dieu à sa parole. Il le prend au mot. C'est un cas semblable à celui de Bartimée. Il était aveugle, mais cependant il savait qu'il pourrait attirer l'attention de Jésus-Christ. Et il obtint ce qu'il voulait. La femme savait que si elle pouvait toucher le bord de son vêtement, elle obtiendrait ce qu'elle désirait. Et elle l'obtint. Tom Kidd savait que si je priais pour lui, il obtiendrait ce qu'il voulait. Il avait la foi. N'est-ce pas la même foi que possédait Marthe quand elle dit à Jésus, « En ce moment même, Seigneur, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu le fait pour toi. Mon frère repose ici depuis 4 jours dans la tombe. Il est mort. Mais si tu demandes à Dieu de le ressusciter, Dieu le fera pour toi. » Jésus lui répondit, « Ton frère se lèvera de nouveau. Il ressuscitera. » Et Marthe lui dit, « Oui, Seigneur, dans les derniers jours, à la résurrection, il ressuscitera. C'est un brave garçon. » Mais Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » « Oui, Seigneur, je crois cela aussi. »« Très bien, lui dit Jésus, montre-moi où tu l'as enterré. » Et voilà, c'était terminé. « Oui, monsieur, la reine du Sud monta à Jérusalem dans cette génération d'incrédules et d'incroyants. Elle se tint là. » Elle crut ce qu'elle vit et qui venait de Dieu. La Bible dit que dans les derniers jours, elle ressuscitera, mais que cette génération-là sera condamnée, car elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Moïse fut un croyant authentique. Il essaya tous les moyens. Il essaya par l'intelligence. Il essaya tous les plans qu'il avait conçus, mais sans succès. Il essaya de libérer Israël, sachant qu'il avait été appelé pour cela. Il essaya la manière mathématique, il essaya la manière militaire, il essaya la manière de l'éducation et de l'instruction. Il essaya tous les moyens, mais aucun ne réussissait. Mais finalement, il prit la voix de Dieu. Qu'arriva-t-il alors? Il y eut un jour là-bas un buisson ardent qui ne se consumait point, et de là, la parole lui fut adressée. Elle disait, « Je suis ». Non pas « j'étais » ou « je serai », mais « je suis ». Et il est toujours le « je suis ». Il est la parole, l'éternel, la parole qui dure toujours. Moïse ne douta pas. Tout était contre lui. Les difficultés étaient contre lui. Chaque nature était contre lui. Toutes choses étaient contre lui. Mais avec une seule verge noueuse en bois à la main, il descendit là-bas. Il fit sortir Israël de l'Égypte. Il lui fit traverser la mer Rouge et il le conduisit vers la terre promise. Pourquoi? Parce qu'il avait cru Dieu. C'était un croyant authentique. Nous en avons maintenant terminé pour les croyants authentiques. C'est une demi-heure que nous leur avons consacrée. Et il reste encore deux catégories à examiner. Nous allons nous dépêcher parce qu'elles sont de moindre importance. Venons-en à l'incroyant. Que fait l'incroyant? Nous avons vu tout ce que fait le véritable croyant. Il accepte la parole. Chaque race, chaque génération suit la même voie depuis Noé jusqu'à nos jours. Au travers de tous les réveils, le dénominateur commun, c'est la foi. Il croit. Le véritable croyant ne questionne pas. Il croit. Sans tenir compte de l'apparence, de l'opinion de tel ou tel, aussi irréalisable que ça lui puisse lui paraître. Le croyant croit. Et que croit-il? Il croit la parole, et non pas un credo. Il croit la parole, et pas une dénomination. Il croit non pas ce que quelqu'un dit, mais ce que dit la parole. Voilà ce que c'est qu'un croyant authentique. Il ne pose pas de questions. Il ne dit pas, comment cela peut-il être, si on pouvait me l'expliquer? Par contre, c'est ce que dit l'incroyant, voyez-vous. Pour le croyant, la parole est la parole, quoi qu'il en soit. La parole, c'est la vérité. Amen. Mais qu'en est-il maintenant des incroyants? Nous découvrons qu'ils agissent correctement, aussi longtemps qu'on les tapote sur les épaules et qu'on les appelle des disciples. Tant que tout va bien, ils sont d'accord. Mais quand ce prophète, qu'ils croient être un prophète et qui était connu comme tel, qui pouvait guérir les malades et faire des miracles, que fit-il donc qu'ils ne purent accepter? Quand la vérité vraie se révéla, contrairement à ce qu'ils pensaient, ils ne purent accepter cette parole. Ils comprennent les miracles, et ils en accomplissent eux-mêmes. Nous lisons dans Luc, au chapitre 10, que Jésus avait envoyé deux par deux au-devant de lui les 70 disciples qu'il avait choisis. Ils prêchèrent la parole, ils chassèrent les démons. Mais malgré cela, ils étaient des incrédules. Ils avaient tellement chassé de démons que Jésus se réjouissait en disant, « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. » Dans Luc 10, 18, Judas était parmi eux. Ce fut la source des incroyants. Mais aussitôt que Jésus annonça qu'il était la résurrection, qu'il était la vie, que diriez-vous si vous voyez le Fils de l'homme remonter d'où il est venu? Alors certains dirent, « Maintenant le voici qui essaie de nous faire croire que cet homme est venu du ciel. C'est trop fort pour nous. Nous ne pouvons pas croire cela. » Et ils s'en allèrent. Jésus a dit, qu'est-ce que c'est? La chair dont vous parlez ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Nous y voilà, l'esprit vivifie la parole. C'est un esprit, non pas un credo. L'esprit, le Saint-Esprit vivifie la parole pour vous, et à vos yeux elle devient vivante. Nous y voici, vous la voyez par la foi, vous la voyez vivante. Vous savez qu'il en est ainsi parce que la parole l'a dit. Et l'Esprit rend pour vous la parole vivante. Voilà où nous en sommes. Nous découvrons les incroyants. Lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec ce que vous leur dites, alors ils se séparent de vous. Oh, disciples, je ne peux pas accepter cela. Aujourd'hui, cela est si courant, si visible dans le monde. Commencez à parler, alors ils se rassemblent. J'ai constaté dans les grands meetings la réaction suivante. Je me lève, je commence à dire quelque chose, ils sont assis là. Ils m'épient tout simplement, ils sont tous aux aguets, ils attendent. Et aussitôt que je dis, Jésus-Christ s'est identifié lui-même dans le Messie parce qu'il était un prophète, alors pour eux, la coupe est pleine et ils s'en vont. Qui sont-ils? Des incroyants. Maintenant vous dites, vous avez arrangé cela à votre manière? Non, ce n'est pas vrai. Je dis exactement ce qui est écrit dans la Bible. Ils étaient des incroyants et ils sont partis. Bien qu'ils fussent des disciples, ils s'en allèrent parce que ce qu'ils entendirent n'était pas conforme à leur pensée. Ils disaient, qui peut croire une chose pareille, voyez-vous? Ce sont des pharisiens et des sadducéens qui partirent. Voyez-vous, quand le surnaturel se présente, il produit trois genres de réactions, trois types différents. Ce fut le cas en Égypte. Il y eut des incroyants, des croyants et des soi-disant croyants, des croyants de confection. Et à la fin de cette réunion, il y aura ces trois sortes de classes. Il en est toujours ainsi. Maintenant, suivez bien. Les 70 sont partis parce que ce qu'ils avaient entendu ne correspondait pas à leur raisonnement. Nous n'avons pas à tenir compte de nos pensées. Ce qui compte, c'est ce que lui a dit. Vous devez renier votre propre pensée. Vous devez dire seulement ce qu'il dit. Cela est une véritable confession. Confesser signifie dire la même chose. Si je confesse que cette chose s'est produite, je dis la même chose que ce qui s'est produit. Cela est une véritable confession. Jésus est le grand prêtre de notre confession. Voyez-vous ? Dire exactement ce que Dieu a dit. Voyez-vous, c'est parfait, parce que vous répétez exactement la parole de Dieu. Que s'ils les 70, ils s'en allèrent, parce qu'ils étaient en désaccord avec ce qu'ils avaient entendu. C'était trop pour leur propre sagesse, pour leur dénomination. C'était trop pour eux de penser que cet homme qui se tenait là devant eux était né enfant illégitime. Tous pensaient de même. Il n'avait aucun droit à s'appeler lui-même Dieu. Ce n'était à leurs yeux qu'un homme et seulement un homme. On a dit à Jésus, nous ne te lapidons pas pour les miracles que tu as faits, mais nous te lapidons parce que étant homme, tu veux te faire passer pour Dieu. Et la parole disait bien qu'il était Dieu. Il sera appelé conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. Ésaïe 9.5. Mais le jour même de la crucifixion, il chantait dans le temple le psaume 22 que David avait composé des années auparavant. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous mes os sont apparents, aucun d'eux ne sera brisé. » Ils étaient tous trop aveugles pour voir qu'il s'agissait du Messie qu'ils venaient de crucifier. Et aujourd'hui, ce même Dieu qui a parlé de cet âge est présent sur la scène, faisant exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Mais ils sont trop aveugles pour le voir. Ce sont des incroyants. Ils s'en vont en disant, « Oh, je ne puis croire à ces balivernes. Je n'ai jamais entendu cela de ma vie. » Vous pouvez bien dire ce que vous voulez, cela n'a aucune importance. Mais la Bible dit que cela se produira. C'est sa parole. Eux non plus n'avaient jamais entendu parler de ces choses-là. Et pourtant, elles se produisirent néanmoins, c'est juste. Ils étaient des incroyants, exactement comme Ève l'a été. Elle avait des sentiments religieux, évidemment, mais elle n'a pas cru la vraie parole. Elle eut à se faire une religion pour elle. C'est pourquoi elle se couvrit avec quelques feuilles de figuier, voyez-vous? Cela ne pouvait pas fonctionner. Religion signifie une couverture. Cain opéra de même. Il ne pouvait croire au choix favorable de Dieu pour le sacrifice d'Abel. Il disait, Dieu est saint, Dieu est pur, et Dieu est magnifique. Aussi vais-je prendre des fleurs, et je vais élever un autel bien décoré. Il verra ainsi la révérence que j'ai pour lui. Et devant ce grand autel, je m'inclinerai devant Dieu, et je l'adorerai. Et je mettrai des fleurs sur l'autel. Parce que vous savez, mon père et ma mère ont mangé quelques pommes au jardin d'Éden. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu au monde. Alors je vais retourner là-bas, car je veux que cet autel soit magnifique. Dieu ne pourra pas se détourner de ma grande cathédrale. Ce sera une très grande cathédrale. Elle sera si jolie qu'elle attirera l'attention de Dieu. Voyez-vous, Satan est le spécialiste en beauté. C'est exactement ce que dit l'Écriture. Voilà pourquoi quelquefois une jolie femme devient une amorce et un appât pour Satan. S'il peut se rendre maître de l'une d'elles, il peut, grâce à elle, précipiter en enfer plus d'hommes que par le moyen de tous les cafés de la région. C'est vrai, voyez-vous?
Passage incompréhensible sur la bande, note de l'éditeur.
Voyez-vous de nouveau, il peut pousser leurs femmes vers le démon et les envoyer en enfer. Oui, monsieur. Notez que Satan demeure dans la beauté. Qu'essaya-t-il de faire au commencement? Il essaya de créer un royaume plus beau que celui de Michaël. Il se dirigea vers l'extrême nord et il prit avec lui les deux tiers des anges. Voyez-vous? Son fils Caïn avait les mêmes goûts, la même nature que lui. Caïn construisit son autel, il s'agenouilla et il adora. C'était conforme à ce qu'Abel avait fait. Mais Abel savait que l'origine de la naissance ne résidait pas dans les fleurs ou les pommes, mais que c'était par le sang du sexe, qu'il était venu au monde. Aussi prit-il un petit animal et il l'offrit en sacrifice sur un rocher après lui avoir tailladé le cou. Dieu dit à Caïn, « Pourquoi n'adores-tu pas comme le fait ton frère Abel? Et ainsi ce sera très bien, tu ferais bien d'agir comme lui. » Non, Caïn en savait trop à ce sujet. Voyez-vous, Caïn rejeta la parole d'origine et confirmée. De nos jours, n'en est-il pas de même parmi ses enfants? Dans Hébreux 11:14, Dieu approuva l'offrande d'Abel et en cela, il confirma que le sacrifice qu'il offrit à Dieu était le bon. Dieu approuvait que c'était ce sacrifice qu'il acceptait. C'était sa parole, c'était son plan. Et il dit à Caïn, fais de même et vis. Mais pensez-vous que celui-ci changerait d'opinion? Non, monsieur. C'était un incroyant. Dieu partit et Caïn en fit autant. Il fit la même chose. Nimrod fit la même chose. C'était tous des incroyants. Ils ne croyaient pas. Nebuchadnezzar agit de même. Il avait appelé Daniel du nom de son Dieu, Belshazzar. Il vit Daniel faire les grandes œuvres de Dieu de l'Éternel. Il croyait que Daniel était un Dieu. Alors, il fit édifier une statue à l'image de Daniel et il obligea tout le monde à adorer cette statue. Voyez-vous? Le royaume des gentils débuta dans l'obligation d'adorer l'image d'un saint homme. Voyez-vous? Et sur le mur apparut une écriture manuscrite dans une langue inconnue. C'était au début du royaume des gentils. Personne ne pouvait le comprendre, excepté le prophète Daniel. Et aujourd'hui, il y a également sur le mur une écriture manuscrite, Ichabod, ce qui signifie que la gloire de Dieu est bannie de nos jours. 1 Samuel 4:21. La gloire de Dieu est bannie de ces choses. Et cette inscription manuscrite qui se trouve aujourd'hui sur le mur peut être lue et comprise par la pensée spirituelle qui croit les choses spirituelles et qui est née de l'Esprit de Dieu. L'ancien Belshazzar sortit et but du vin dans les vases d'or de l'Éternel ramenés du temple de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il était un incrédule. Il pensait être un croyant, mais il était un incroyant. Pourquoi? Parce qu'il ne crut point à la parole. Akab, lui, était un incroyant, bien qu'il agissait comme s'il ne l'était pas. Non, non, il se trouvait parmi les croyants, mais il était un incroyant. Et que fit-il donc? Il se maria avec une femme idolâtre, et ainsi il fit entrer l'idolâtrie en Israël. Il fut un incroyant, nous savons cela. Les incroyants ne croient pas que toute la parole de Dieu soit la vérité. L'incroyant est un hypocrite. Il dit qu'il croit en ceci et il ne croit pas en cela. Il dit, la plus grande partie est bien. Mais alors, si la totalité n'est pas toute bien pour cet homme est un incroyant. Vous devez croire à toute la parole de Dieu, à tous les signes de ponctuation, à tous les iotas, à tout ce qui est marqué dans ce livre. Car tout est vrai, il n'y a rien de faux. Si vous dites, je ne crois pas à ce passage, alors vous êtes un incroyant. Un jour, un prédicateur m'a dit, peu m'importe, frère Branham, le nombre de personnes que vous me dites avoir été guéries, je ne le croirai jamais. Je lui répondis, c'est certain, vous ne pouvez pas le croire, vous êtes un incroyant. La guérison divine n'est pas pour vous, c'est uniquement pour les croyants. Voyez-vous, vous devez le croire, et eux ne le croient pas. Dans 2 Timothée 3:5, Paul nous a mis en garde contre ces prophètes emportés, enflés d'orgueil, amoureux des plaisirs du monde plus qu'amoureux de Dieu, ayant des formes de piété, mais reniant la puissance de la parole. Détournez-vous de tels prophètes, voyez-vous? Ils renient l'ensemble de la parole, mais en toute chose ils sont religieux. Ils sont incroyants à la parole de Dieu véritable, même si elle est confirmée. Au travers de chaque âge, Dieu a confirmé la parole de ces personnes dont je vous ai parlé, de Noé jusqu'à Moïse, et au travers de tous les prophètes, Dieu a parlé au travers du surnaturel, et il a manifesté la parole. Et cependant, tous ces gens en font fi. Voici ces 70 disciples. Ils se tiennent en la présence de Jésus. Ils sont témoins visuels des choses qu'il a faites. Ils connaissent les Écritures. Jésus leur avait dit que ces choses étaient pour l'âge dans lequel ils vivaient. Alors, quand Jésus rompit le pain, ils poursuivirent, lui parlant de tout à fait d'autres choses. Mais quelle fut la réaction parmi eux? Ils dirent, « Oh, ceci est une chose trop difficile à comprendre, à accepter. » Alors Jésus a poursuivi en disant, « Que diriez-vous si vous voyez le Fils de l'homme monter au ciel d'où il est venu? Est-ce la chair ou l'esprit qui vivifie? Voyez-vous? » Et ils s'en allèrent. « Oh, disait-il, comment pouvons-nous croire cela? » Ils marchaient hors de la parole. Ils ne voulaient même pas rester pour voir ce qui allait se passer. Voilà l'incroyant. Alors que firent-ils? Nous découvrons que ces gens qui se disaient croyants, mais qui n'étaient que religieux, ne purent pas voir la vérité identifiée de la parole de Dieu, parce que cela est contraire à ce qu'ils pensent. Voyez-vous? Cela n'a rien à voir avec ce que vous croyez. Aussi loyaux et sincères que vous puissiez l'être, aussi religieux que vous puissiez l'être, cela ne rentre même pas en ligne de compte. La sincérité n'a rien à voir avec cela. J'ai vu des personnes si sincères. J'ai vu des païens brûler leurs enfants, les donner en pâture aux crocodiles, ainsi que des mères et leurs bébés. C'est plus qu'aucun chrétien ne pourrait jamais faire. Voyez-vous? Ils croient sincèrement, mais ce qu'ils croient est sincèrement faux. Les gens disent, « Eh bien, cette église s'est maintenue. » Oh, vous vous trompez sincèrement, c'est contraire à la parole. Les gens disent, « Voyez-vous, je ne crois point de telles choses. » Mais la Bible dit que cela s'est passé ainsi. Alors, maintenant d'autres disent, « Je ne pense pas que nous avons à faire quelque chose avec cela. » Peu m'importe ce que vous pensez ne pas avoir à faire. Dieu a dit que cela doit être fait. Ces signes les suivront. Jusqu'où? Dans le monde entier. Et à qui? À toute créature. Voyez-vous? Cela doit être. Que dis-je? Cela commence seulement à arriver. Ce message de l'heure, dont nous avons aujourd'hui la joie dans notre cœur, dont nous réjouissons maintenant, la présence de Dieu, le dernier jour, le temps du soir, où la lumière brillera, où tout sera révélé, ouvert, quand la parole confirmée, prouvée, manifestera toute la vérité. Ce qui a été prophétisé s'accomplira scientifiquement, et toute chose prouvera que c'est Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Si un homme ne comprend pas cela, s'il marche en dehors de cela, c'est un incroyant. Il n'y a plus d'espoir pour lui. Il est marqué par le pouvoir de Satan. Aussi, il ne lui reste aucun espoir. Maintenant, où en sommes-nous? Nous avons parlé des croyants authentiques et de l'incroyant. Nous allons maintenant aborder la troisième catégorie, celle du soi-disant croyant. C'est exactement quelqu'un qui fait semblant d'être croyant. Il feint de croire. Ici, dans ce tabernacle, nous avons ces trois catégories. Ils agissent exactement comme le firent leurs ancêtres, comme Judas. Judas est le type des soi-disant croyants. Pierre et le reste des apôtres représentent les croyants authentiques. Et les 70 disciples sont le type de l'incroyant. Et Judas, celui du soi-disant croyant. C'est le type de ceux qui tiennent bon, jusqu'à ce qu'ils puissent trouver la faille, ce qui ne va pas. Ils essayent chaque fois de chercher le défaut. Ils veulent voir comment cela s'est passé, voir s'il n'y a pas quelques trucs de caché. Ils attendent d'y être arrivés complètement. C'est ce qu'ils attendent. L'incroyant, lui, n'essaye même pas de tourner autour. Il condamne la chose, puis il s'en va. Pour le véritable croyant, il n'y a pas de problème. Quoi qu'il arrive, il le croit parce que c'est la parole. Et le vieil incroyant montre tout de suite sa couleur. Il s'en ira dès qu'il entendra la première chose qui ne lui convient pas. C'est un incroyant. Paul l'a dit. Ils nous ont quittés parce que dès le commencement, ils n'étaient pas des nôtres. Ils prirent le départ avec nous. Oh, comme vous couriez bien, qu'est-ce qui vous arrêtait? Voyez-vous, ils sont partis parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Quand ils ont vu que la parole se manifestait parfaitement, alors ils ont essayé de voir comment cela pouvait fonctionner. Voyez-vous, les croyants authentiques ne posent aucune question. C'est écrit dans la parole. Ils le croient tout simplement et ils poursuivent, ils continuent. Et si ce n'est pas écrit dans la parole, alors tenez-vous aussitôt éloigné de cela, quoi qu'il puisse arriver, car cela doit être écrit. Et il voit cette parole écrite et il la croit. Alors il voit Dieu vivant dans sa parole. Il voit l'heure, le message, le temps, et il marche avec cette parole, comme je l'ai dit ce matin. Oh, comme ce vieux Pilate a-t-il pu arpenter de long en large le plancher de sa maison cette nuit-là où sa conscience le tourmentait? Il essayait de se justifier lui-même. Nul doute que pendant toute la nuit, il est appelé en disant « J'ai lavé mes mains toute la nuit et je ne comprends toujours pas. Voyez-vous, elles ne sont pas propres. Je ne pourrai jamais le rencontrer. J'ai toujours du sang sur mes mains. Oh, voyez-vous, ne soyez jamais coupable de cela. Cela est sur vos mains, et il n'y a qu'un seul moyen de le faire disparaître, c'est de l'accepter, c'est vrai. Devenez une partie de lui, c'est pour cela qu'il a versé son sang. » Le soi-disant croyant, il rôde toujours dans les environs, il agit aussi pieusement qu'il le peut, mais au fond de son cœur, il cherche à savoir comment vous agissez. Le pays n'est-il pas rempli de ces hypocrites? Voilà Judas. C'est exactement lui. Il rôde partout. Il fait partie du groupe. Il était même le trésorier. Voyez-vous, il se tient tout autour. Il tend toujours la main pour demander de l'argent. Vous pouvez être assuré d'une chose, il est toujours en quête d'argent. Il tend toujours sa main dans ce but et il est un croyant simulateur. Il agit comme un croyant. Mais au fond de son cœur, rappelez-vous, il n'a pas pu séduire ou tromper Jésus. Après le départ des 70 disciples, il s'approcha des croyants, des apôtres, et il leur dit, « Il y a encore quelque chose en vous, car j'en ai choisi 12, et l'un de vous est un démon. » Jésus le savait dès le commencement. Pourquoi? Il était la parole. Il connaissait le secret de chaque cœur. Oh, comme cela a-t-il dû être pénible pour le Seigneur Jésus. Pendant une minute, pensez-y profondément vous-même. Combien cela a-t-il dû être dur pour lui d'être toujours en rapport avec un homme qu'il appelait frère, et sachant dès le commencement que celui-ci le trahirait et qu'il le vendrait pour 30 pièces d'argent. Comme il était dur de le garder dans son intimité et de voir son ami marcher ainsi auprès de lui. Jésus a même dit « ami ». Il appelait Judas son ami. N'ai-je pas été avec vous tout ce temps? Jésus savait dans son cœur et il ne pouvait même pas le dire. Il savait dès le commencement quel était celui qui le trahirait. Ici même, il y a ce soi-disant croyant qui est en train d'attendre. Il va chanter les cantiques. Oh, dira-t-il, je crois ceci, je crois cela. Mais savez-vous, j'ai entendu quelqu'un dire telle ou telle chose à ce sujet. Il a de longues oreilles. Un croyant authentique n'écoute pas autre chose que la parole, c'est tout. Il observe la parole, il ne va pas regarder par le trou de la serrure. Il croit Dieu et cela règle tout et il continue ainsi. Voyez-vous, voilà ce croyant authentique. Quant à l'incroyant, il est rempli en une minute. Il ne peut pas rester 10 minutes pour entendre le message. Il doit se lever et sortir. car ce qu'il entend est contraire à son credo. Alors il ne veut même pas entendre la suite et il s'en va. Quant aux soi-disant croyants, ils rôdent toujours partout. C'est Judas. Il trompe son monde. C'est un gredin et un fripon, si je puis utiliser un tel mot. Judas rôde toujours. Et quelquefois, ces soi-disant croyants sont très populaires, c'est vrai. Certains d'entre eux sont des hommes puissants, des hommes instruits. Ils sont diplômés, ils ont une belle situation. Quelques-uns sont rusés comme les fils de Satan le sont. Regardez comment Satan s'est présenté auprès d'Ève. Il était d'accord avec chaque particularité de la parole. Il était tout simplement là pour voir quel était le point faible d'Ève, afin de lui montrer sa puissance pour la séduire, pour la trahir. Satan agit ainsi. Dans l'âge de Jésus, Satan était là, caché dans le corps de Judas. C'était le Satan du premier âge. Qu'était-il ? Suivant la parole, il était simplement une petite chose. Il rôdait, essayant de trouver une occasion favorable, essayant de déceler la faiblesse d'un tel ou d'une telle. C'est exactement ce que Judas a fait en ce moment même. Il se rend à la réunion, il épie tout ce qui est dit, et soudain, il peut trouver ce qu'il cherchait. Ce petit mot qui, oh oui, il est ici même, c'est cela, voyez-vous ? C'est sa tactique, exactement cela. Certains d'entre vous se rappellent ce soir-là quand cet homme à Windsor, dans l'Ontario, monta sur l'estrade. Il pensait que la lecture des cartes de prière, c'était de la télépathie mentale. Comme il était certain de m'avoir, frère, il était certain d'avoir découvert une supercherie. Il appartenait à une église qui ne croit pas à la guérison divine. C'est-à-dire une église qui ne croit pas à l'évangile, au plein évangile. Il monta donc sur l'estrade. J'étais fatigué. Il s'était mis dans la tête de me confondre. Ceci se passait dans l'auditorium de Windsor dans l'Ontario. L'homme avait traversé tous les États-Unis pour venir là. Il venait de Détroit. Il monta donc sur l'estrade. Il portait un élégant costume gris et une cravate rouge. Il paraissait intelligent et sûr de lui. Je lui ai dit, « Donnez-moi votre main. » Et j'ajoutais, « Je suis fatigué. J'ai eu tellement de visions. Faites-moi voir votre main. » Il me la donna. Je la pris. Il n'y avait point de signe. Je lui dis, « Vous n'êtes pas malade. Vous pouvez vous retirer. » Il me dit, « Oh, si, il y a quelque chose qui ne va pas en moi. » J'examinais de nouveau la main et je lui confirmais, « Non, monsieur, il n'y a aucun signe. Non, monsieur, vous êtes en parfaite santé. » Mais me dit-il, « Regardez ce qui est écrit sur ma carte de prière. » Je lui répondis, « Peu importe ce que vous avez pu écrire sur votre carte de prière, je ne m'occupe pas de ces cas-là. Je ne me méfiais pas. Je ne me méfiais pas de lui. Je ne me méfiais de rien, voyez-vous. J'étais fatigué et j'étais épuisé. Mais voyez-vous, la grâce de Dieu était toujours là. Toujours présent. Si le Seigneur vous utilise, il est dans l'obligation de prendre soin de vous. Ce n'est pas à moi de le faire, c'est à lui. Il a envoyé sa grâce. Tout ce que je dois faire, c'est de me cramponner dans ce qui est la vérité. Quand Moïse lança sur le sol sa verge qui se changeait en serpent, que pouvait-il faire quand les magiciens firent la même chose? Il ne pouvait que compter sur la grâce de Dieu. C'est tout. C'est la même chose, il suivit les ordres de Dieu. Et vous savez ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Cet homme me dit, « Eh bien, regardez ce qui est écrit sur ma carte de prière. » Alors, je lui ai dit, « Eh bien, vous avez dû avoir une grande foi pour être débarrassé de toutes ces maladies. » Voyez-vous, je ne me doutais de rien, je ne faisais même pas attention. Mais l'homme déboutonna son veston et il bomba le torse, et il dit à l'auditoire, « Nous y voilà !» Et je pensais, mais qu'y a-t-il donc? L'homme regarda l'auditoire et il dit, « Nous y voilà! Vous avez vu le manège? » Voilà Judas, un homme religieux, un prédicateur d'une grande dénomination. Il dit, « Il paraît que maintenant je suis rempli de foi. Il est si fatigué qu'il n'a même pas pu lire la télépathie. Je ne viendrai plus le voir, non. Ma foi n'a pas grandi. J'ai inscrit sur ma carte de prière le nom de la maladie et maintenant il ne peut même pas la saisir. C'est de la comédie, c'est un manège. » Je pensais, mais qu'y a-t-il? Alors, la grâce de Dieu descendit et se manifesta. Je dis à cet homme, « Monsieur, pourquoi le diable a-t-il mis dans votre cœur le désir d'essayer de tromper Dieu ? Vous êtes un Judas moderne. Vous êtes un prédicateur de l'Église de Christ. Vous appartenez à cette Église de Christ tellement connue aux États-Unis. Cet homme qui est assis ici, qui porte un costume bleu, était hier soir attablé avec sa femme, votre femme et vous-même. Et au-dessus de cette table, il y avait quelque chose de vert qui est apparu à un certain moment. Et vous avez pensé qu'il s'agissait de la télépathie. C'est pourquoi vous êtes revenu ce soir. » Cet homme se leva et il me dit, « C'est l'exacte vérité, que Dieu ait pitié de moi. » « Monsieur, lui dis-je, vous aviez inscrit sur votre carte tuberculose et cancer. Et maintenant, sachez que ces deux maladies, vous les avez en vous. Maintenant même. » Il s'agrippa au bas de mon pantalon en disant, « Je n'ai pas voulu. » Je lui répondis, « Je ne puis plus vous aider. Allez-vous-en. C'est maintenant une affaire entre vous et Dieu. Vous avez inscrit votre propre condamnation sur votre carte. » Et cet homme attrapa ces deux maladies. Voyez, des soi-disant croyants, des calomniateurs qui essayent de trouver quelque chose de faux en Dieu et dans sa parole. Vous êtes des suppôts de Judas. Vous connaissez quelle a été la fin de Judas? Voyez comment ce prédicateur a été châtié. Voilà ce qui arrive aux soi-disant croyants. Voyez-vous, soi-disant croyants? Oh! Ils peuvent être très instruits, très bien éduqués, mais quelquefois un grand rideau descend entre la parole et leur credo. Et quand cela arrive, ils sacrifient la parole au profit de leur dénomination, exactement comme le fit Judas leur devancier. Judas vendit Jésus, la parole, à sa dénomination, et il trahit Jésus-Christ après avoir proclamé qu'il était une partie de lui. Quelquefois, les prédicateurs proclament être des serviteurs de Christ. Mais quand la parole est totalement identifiée pour être confirmée pour ce jour même, que c'est le message de cette heure, alors ils vendent leur popularité à leur dénomination, exactement comme Judas l'a fait. Il trahit Jésus et il le livra aux pharisiens et aux sadducéens. Cet esprit-là n'est pas mort. Il se trouve dans ce tabernacle où il y a des croyants, des incroyants, des soi-disant croyants. Si Judas a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent, beaucoup aujourd'hui agissent de même pour un ticket de restaurant ou pour un extra de 100 dollars par semaine. C'est vrai, ils renient le Dieu qui se tient au milieu d'eux, qui a apporté la vie avec le plein évangile, la parole intégrale. Et ils disent, oh, les jours des miracles sont passés. Ou bien, aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin de tout cela, voyez-vous? Oh, je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ou, je vous salue Marie, Mère de Dieu, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et ils disent toutes sortes d'autres choses. Certains disent, je crois dans le credo des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Je crois dans la Sainte Église catholique, romaine et tout le reste. Mais dites-moi donc, quand un apôtre a-t-il possédé un tel credo? Si les apôtres ont eu un credo, il se trouve dans Actes 2:38 écrit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » S'ils avaient eu un credo, cela aurait été celui-là. Mais ils n'avaient aucun credo. C'était la parole, c'est vrai. Et il en est toujours de même. C'est la prescription pour guérir la maladie du péché. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais ils le vendent comme Judas. Ce sont des soi-disant croyants. Certains sont des gens très éminents. Méfiez-vous de ces gens-là. Ils sont très malins. Ce petit gaillard qui se remplit si vite et qui sursaute et qui s'enfuit à chaque petite phrase qui ne lui plaît pas, laissez-le de côté, n'y faites même pas attention. dès le commencement, c'était un incroyant. Mais, si vous voyez ce gaillard qui rôde, alors c'est Judas, c'est lui. Il y a de grands prédicateurs, de grands talents. Je ne devrais pas les nommer, mais je vais quand même le faire, afin que vous les connaissiez. Il y a Elvis Presley, Wes Follett, Ernie Ford, Pat Boone. Elvis Presley est un pentecôtiste. Pat Boone est de l'Église de Christ. Wes Follett est un diacre dans l'Église de Christ. Je crois qu'Ernest Ford est un méthodiste. Tous ces gens-là ont beaucoup de talent. Ils sont élégants, ils parlent à la télévision, et les gens disent d'eux, « Oh, comme ils sont religieux !» Ils chantent de si beaux cantiques. Cela ne signifie rien du tout. Ils ont séduit le monde. Qu'ont-ils reçu pour cela? Judas reçut 30 pièces d'argent. Elvis, lui, possède une flotte de Cadillac. Il a 150 millions de dollars. Ses enregistrements lui rapportent 1 million de dollars. En ce qui concerne Pat Boone et tous les autres, peu m'importe à quelles églises ils appartiennent et tout le reste. Ce sont des hypocrites. Ils sont des soi-disant croyants. C'est une façade. Et la vie qu'ils mènent prouve que tout cela n'est pas droit. Puis, il y en a beaucoup d'autres chez qui il est alors dans la grande organisation, dans la sagesse du monde. Ils disent prêcher l'évangile. Ce sont des intellectuels, des hommes intelligents. Un homme qui est entraîné, qui est éduqué dans cette manifestation est un conférencier et non pas un prédicateur. De nos jours, voilà l'ennui. Nous avons trop de conférenciers. Jésus n'a jamais dit « Va et entraîne-toi à faire ceci ». Non. Il a dit « Allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Et ces signes suivront la prédication. » Marc 16. Voyez-vous, n'essayons pas de devenir un conférencier qui se tiendrait devant vous pour tout enjoliver en utilisant un langage fleuri qui vous donnerait l'impression d'être assis en présence d'un archange. Ce n'est pas cela qu'il vous faut. Ces gens-là ont une forme de piété. Voyez-vous, ce sont des conférenciers, mais le Saint-Esprit n'agit pas en eux. Certains d'entre eux ignorent que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans la puissance de la foi en la parole. Alors le Saint-Esprit réalise des choses dont ses conférenciers ignorent tout, et il renie ce Saint-Esprit. Nous y sommes, oui monsieur. Puis il y a les organisateurs. Ils sont prospères, ils ont du succès, ils sont doués dans la sagesse du monde, exactement comme Satan se manifesta auprès d'Ève. Cette petite femme, sans défense, il va directement à elle et il essaya de lui vendre sa camelote. Il lui fit croire qu'elle pourrait être plus avisée, plus intelligente qu'elle ne l'était. C'est justement ce qu'elle recherchait. Au lieu de s'en tenir uniquement à la parole, à ce qu'elle disait, il a voulu vendre à Ève son produit, sa camelote, dans l'espoir de voir son intelligence s'éveiller. Ces gens-là font de même aujourd'hui. Mais rappelez-vous que la sagesse du monde est folie pour Dieu. Oui, monsieur, les pharisiens ont agi de même. Voyez-vous, avec la sagesse qu'ils avaient, ils ont renié toute la parole de Dieu, alors qu'elle a été prouvée et manifestée devant eux. Ils essayent encore de trouver la faille, et ils pensent que c'est juste un manège. Ils ne sont pas affermis dans leur esprit. Ils ne peuvent pas le croire. Vous pouvez leur dire n'importe quoi, ils rétrogradent. Vous ne pouvez pas les convaincre. Cela ne peut pas pénétrer en eux. Observez-les. Ils essayent de chercher en surface. C'est tout ce qu'ils veulent. Et si cela n'avait pas été, pour la grâce de Dieu, toutes mes failles, si j'en avais, auraient été exposées au grand jour. Mais c'est une grâce de Dieu, parce qu'il n'existe aucune faille dans la parole de Dieu. C'est l'évangile intégral. Je l'ai toujours dit. Si quelqu'un me voit enseigner ou faire quoi que ce soit contraire à la parole de Dieu, qu'il me le dise. Ici se trouvent ceux qui bouchent la fente, la faille que vous essayez de trouver. Posez simplement votre regard sur la parole, car en elle, il n'y a pas de faille. Et vous ne pourrez donc pas en voir. Rappelez-vous, Judas pensait en avoir trouvé une. Souvenez-vous-en. Souvent on pense en avoir trouvé une, mais en définitive, il est prouvé qu'il n'y en a pas. Ce sont les soi-disant croyants qui agissent ainsi. ce sont des hypocrites. Ils croient la parole à 95%. Ève était ainsi. Même si vous la croyez à 99,99%, c'est le 0,01% qui reste, qui causera la mort et l'affliction. C'est un infime pourcentage mis de côté qui condamne les organisations parce que la parole de Dieu n'est pas acceptée à 100%. C'est le fait des soi-disant croyants. Et cela a toujours été ainsi. Et cela a été constaté dans toutes les générations. Nous le constatons de nos jours. Les soi-disant croyants sont très religieux. Je vais en terminer maintenant, car je viens de vous parler à nouveau pendant une demi-heure. Nous avons vu que Jésus nous a mis en garde contre ces derniers jours et contre cette sorte de gens. Ils se cachent tellement bien en anges de lumière qu'ils pourraient, si cela était possible, séduire les élus eux-mêmes. Qui sont-ils? Ce sont les suppôts de Judas. Ce sont des gens qui sont montés très haut. Regardez-les. Ils peuvent crier, proclamer qu'ils ont chassé des démons et accompli toutes sortes de miracles. Et puis finalement, ils ont tourné leur veste et ils ont renié la parole. C'est exactement cela. Ils ont une forme de piété. Regardez jusqu'où Judas est arrivé. Ils ont une forme de piété. L'esprit de Judas est monté dans l'évangile jusqu'au moment de la Pentecôte. Mais quand est venue l'heure de prendre le baptême d'eau dans le nom de Jésus-Christ et autre chose qui conduisent au baptême du Saint-Esprit, il s'en alla. Judas ne s'est-il pas pendu le jour même de la condamnation de Jésus, Matthieu 27, verset 3 à 5, il montra ses couleurs. Et cet esprit peut vivre dans ces dénominations jusqu'à ce qu'il parvienne à cette vérité présente. Alors, il se retire, ainsi que l'esprit qui était sur eux et qui avait annoncé leur venue. Exactement comme Jean-Baptiste avait annoncé la venue de Jésus. Vous dites, Jésus a dit qu'il serait si près. L'élu est celui qui fait partie de ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie dès avant la fondation du monde. Il croit à la parole de vie à 100%. Voilà quel est l'élu. Maintenant, surveillez bien ces gens-là. Je dis ceci avec déférence et respect dans l'amour de Dieu, sinon je serais répréhensible. Mais voyez-vous, Dieu a dit que ces gens-là séduiraient même les élus, si cela était possible. De qui s'agit-il? Certainement pas des méthodistes ou des baptistes. Nous savons qu'ils sont des incroyants dès le commencement. Mais il s'agit des organisations pentecôtistes. Ceux qui régissent ces dénominations pentecôtistes, elles ont établi leur réseau en négligeant la parole. Elles y ont placé cette dénomination en l'isolant de la parole. Elles séduisent l'élu lui-même. Elles paraissent si parfaites. Voyez-vous? Ces gens qui pleurent, qui crient, qui se trémoussent, ils se vendent leur guérison divine. Mais Judas fait exactement la même chose. Ainsi font-ils tous. Néanmoins, ils ont leur nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Mais sachez que l'épouse ne se trouve pas dans ce groupe-là. Elle sera enlevée. Au jour du jugement, des livres seront ouverts, ceux concernant les méchants. Et un autre livre sera ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et l'épouse était là pour juger. Voyez-vous, un autre livre fut ouvert, qui était le livre de vie. D'un côté les brebis, de l'autre les boucs. Voyez, les gens qui sont morts là-bas, rétrogrades, ils n'ont aucune possibilité. Ce seront ceux qui seront séparés des brebis. Et maintenant, notez-le bien, séduire les élus même. Observez bien ce groupe des pentecôtistes. C'est ce groupe-là qui vous suit de près. Oui, frère, alléluia, oh, gloire à Dieu. Et au plus profond de votre cœur, vous voyez la raison pour laquelle ils veulent vous faire entrer dans leurs églises. Pourquoi? Ils veulent attirer à eux une foule de gens, afin de tirer d'eux le maximum d'argent. Vous pensiez que je l'ignorais? Ils peuvent croire que je ne le sais pas. Mais je le sais, Jésus savait dès le commencement qui était le séducteur, voyez-vous? Mais que fit Jésus? Il attendit jusqu'à ce temps-là. C'est ce que nous devons toujours faire, attendre jusqu'à ce moment-là. Ne faites rien de vous-même. Attendez jusqu'à cette minute-là. Ils ont une forme de piété et ils avanceront ainsi tout le long du chemin. Mais c'est un groupe séducteur. Méfiez-vous de ces hypocrites. Ce groupe n'est pas un groupe de croyants ni d'incroyants. Il est composé de soi-disant croyants. Oh, que font-ils? Ils enlèvent tout le long du chemin jusqu'à ce qu'ils pensent avoir trouvé quelque chose. Alors ils soutirent chaque penny disponible et ils les empilent dans ces puissantes organisations. Ils savent que vous n'êtes pas d'accord avec cette politique, mais qu'importe votre opinion, ils ont déjà mis en garde leurs membres avant juste que vous arriviez dans la ville. Ne les écoutez surtout pas. Dans l'Ohio, à l'époque où frère Kidd fut guéri, âgé de 90 ans, un homme eut l'audace de venir à la chaire et il dit « Oui, frère Branham est un prophète, il n'y a aucun doute à cela, quand il est sous l'onction. Mais actuellement, dit-il, quand l'onction l'a quitté, ne croyez pas à son enseignement, car c'est du poison. Je me trouvais alors dans ma chambre, et il ne savait pas que le Seigneur venait de me révéler ce qui s'était juste passé dans le tabernacle. Je descendis aussitôt au tabernacle, et plusieurs d'entre vous étiez là. Et je dis, pourquoi un homme peut-il dire une chose pareille quand la parole... Voyez-vous, je n'ai jamais dit que moi-même j'étais un prophète. C'est cet homme-là qui l'a dit. Dans l'Ancien Testament, le prophète était un voyant. Mais aujourd'hui, dans notre version anglaise, un prophète signifie un prédicateur. Dans l'Ancien Testament, un voyant était un homme qui avait l'interprétation divine de la parole. Il était prouvé et confirmé comme voyant, car il avait cette interprétation et il avait le pouvoir de prévoir les événements. Et maintenant, voici un homme qui affirme qu'un prophète se trompe dans son enseignement. Si un tel comportement n'est pas conduit par un plan bien arrêté d'attirer de l'argent à son groupe, alors qu'est-ce que c'est? L'heure est proche où toutes ces machinations s'étaleront au grand jour. Mais voilà la sorte d'individus. Des soi-disant croyants qui vous tapent amicalement sur l'épaule, qui vous appellent frère exactement comme le faisait Judas. Mais n'oubliez pas ceci, le Seigneur le savait dès le commencement. Et il continue à savoir toutes choses. Et pour vous tous qui écoutez cette bande, vous aussi, vous faites partie d'une de ces trois catégories. C'est parfaitement exact. Maintenant, nous allons terminer. Chaque personne ici présente, chaque personne qui écoutera cette bande, et bien qu'un jour je quitterai ce monde, sachez que ces bandes vivront toujours. C'est vrai. Voyez-vous, chacun de vous appartient à l'une de ces catégories. Vous ne pouvez pas y échapper. Identifiez-vous à l'un des personnages de la Bible qui ont cru la parole. Ou pouvez-vous croire la parole quand c'est une parole confirmée comme je vous l'ai prouvé ce soir. C'est toujours, toujours contraire à la croyance populaire. Laissez-moi vous dire maintenant, si vous aviez vécu du temps de Noé, de quel côté seriez-vous allé? Du côté de l'Église ou du côté de Noé, le prophète? Voyez-vous? Si vous aviez vécu dans les jours de Moïse, auriez-vous cru au message de Moïse après que ce message ait été approuvé et confirmé par Dieu? Ou bien, auriez-vous rejoint le camp de Corée, de Dathan et de ses compagnons en disant à Moïse, « Mais tu n'es pas le seul saint homme. Il y en a d'autres qui peuvent faire ce que tu fais. » Voyez-vous? Vous devez être ce soir l'un de ces trois sortes de croyants. Si vous aviez vécu au temps de Daniel, auriez-vous été auprès de lui? Ou bien auriez-vous assisté avec l'Église au banquet donné par Nebuchadnezzar? Vous en seriez-vous tenu à l'écart ou bien auriez-vous participé à cette orgie? Vous seriez-vous tenu aux côtés d'Élie, cet homme qui était seul, qu'on appelait une vieille noix, un homme qui, paraît-il, avait perdu la raison et qui se tenait au sommet des collines, son crâne luisant là-haut au soleil? Il tenait dans sa main un bâton noueux et il recevait des corbeaux sa nourriture. Un fantasque pour les hommes. Ou bien, vous seriez-vous mêlé au prêtre au bas de la colline avec Jézabel, entouré de toutes ses compagnes habillées à la dernière mode? Élie se tenait là-haut et il les admonestait autant qu'il le pouvait. De quel côté votre femme serait-elle allée? Pensez-y, examinez-vous vous-même ce soir. Dans les jours de Jésus, auriez-vous suivi cet homme qui n'avait pas de diplôme, qui n'était affilié à aucune dénomination? On disait de lui, de quelle école sors-tu? Mais tu n'es pas inscrit sur nos listes. Comment as-tu acquis cette sagesse? Comment as-tu pu apprendre sans que nous t'ayons instruit? Quelle école as-tu suivi? Es-tu méthodiste, presbytérien ou baptiste? Il n'était aucun de ceux-là, c'est vrai. Il était la parole. C'est exactement vrai, mon frère. Auriez-vous choisi le groupe des pharisiens à la croyance moderne? Et cet humble et vieux prêtre qui paraissait si gentil et si agréable? Et l'organisation qui a été établie au Concile de Nicée? Depuis, Luther l'a organisée. Dans quel groupe seriez-vous entré? Quel groupe auriez-vous suivi? Vous seriez-vous tenu avec la parole quand vous auriez vu que c'était la parole confirmée et prouvée comme devant être le message de ce jour? Ou bien auriez-vous opté pour la position de l'Église? Ce soir, déterminez-vous vous-même. Auriez-vous été avec les apôtres quand ils virent Jésus et toutes les merveilleuses et mystérieuses choses qu'il accomplissait? Quand il apostrophait tous ses prédicateurs pharisiens? Vous êtes une race de vipères. Et pourtant, ces vieux prêtres paraissaient honnêtes. Ils étudiaient cette parole. Il leur disait, vous n'êtes rien d'autre qu'une caverne de brigands. Vous êtes remplis d'ossements humains. Vous n'êtes rien d'autre qu'un sépulcre blanchi. Voyez-vous? Race de vipères. Seriez-vous resté auprès d'une tête brûlée comme celle-là, qui se tenait là pour faire des reproches et pour écraser? Il disait, lequel d'entre vous pourrait m'accuser de péché? Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Jean 10, 37. Les autres disaient, mais ne l'écoutez pas, il est fou. Il a un démon qui habite en lui. Voyez-vous, il a en lui un démon, un esprit de désir de bonne aventure. Et qui est-il? Il est né avant même que son père et sa mère ne soient mariés. Voyez de quelle école sort-il? Il n'est inscrit nulle part. Il ne connaît même pas la grammaire. Et pourtant, à l'âge de 12 ans, il a étonné et confondu les prêtres quand il parlait de la parole de Dieu. Mais de quelle école est-il sorti? Il est sorti de l'école d'en haut. Quand vous voyez le Fils de l'homme descendre ou remonter d'où il est venu, voyez-vous? Son école était là-haut. Seriez-vous resté avec les apôtres auprès d'un homme comme celui-là? Quand le temps de la séparation arriva, ou bien auriez-vous suivi les 70 disciples qu'il abandonnait en disant, « Si c'est ainsi que tu enseignes, nous préférons retourner dans nos églises. » Il disait cela au Fils de l'homme, en insistant, « Mais après tout, qui es-tu? Tu dis être le Fils de l'homme, mais qu'est-ce que tu es? Tu es un homme comme moi, j'ai mangé avec toi. » Tu essaies de nous dire que tu es quelqu'un, mais moi je t'ai bien observé. J'ai vu ta faiblesse. Je t'ai déjà vu pleurer. Je t'ai déjà vu faire ceci, cela et tout le reste. Je t'ai déjà vu aller au désert avec nous, et ainsi de suite. Et maintenant, toi qui n'es qu'un homme, tu dis descendre du ciel, c'est trop pour moi. Vous seriez-vous joint à ce groupe? Ou bien seriez-vous resté auprès des apôtres et de Christ? Quand Saint Martin essaya de maintenir le baptême dans le nom de Jésus-Christ dans l'Église, quand il essaya de conserver les signes et les miracles, l'Église catholique condamna cet homme. Elle ne voulait même pas le reconnaître du tout. Elle le chassa. Vous seriez-vous rangé du côté du credo catholique? Ou bien, vous seriez-vous tenu du côté de Saint-Martin quand il refusa de dresser toutes ses statues d'hommes morts et de les adorer? Quand il refusa les dogmes qui avaient été ajoutés et qu'il s'écria, que la parole soit la vérité. Dieu le confirma avec de grands signes et des miracles. Et tout ce qu'il avait prédit se réalisa. Tout ce qu'il fit fut de marcher dans l'Esprit de Dieu. Et Dieu l'a prouvé. Il n'y avait aucun autre prêtre qui pouvait en faire autant. Auriez-vous choisi de suivre le pauvre Martin? Ou bien auriez-vous opté pour le credo catholique? Devant vous se trouve la parole de Dieu et les dogmes de l'Église. Prenez-vous et acceptez-vous les dogmes de l'Église, ou bien acceptez-vous ce que dit la parole. Rappelez-vous que dans tous les âges, il en a été comme dans celui-ci que nous vivons. Il y a toujours une croyance populaire parmi les gens qui a toujours été légèrement contraire à la vraie parole. Cette dernière n'a jamais été reniée ouvertement. Oh non ! L'Antichrist ne renie pas la parole. Certainement pas. Il dit même qu'il la croit. Mais pas toute. Sous la forme qu'elle est écrite ici. Voyez ? Voyez ? Satan parle à Ève. Ève, croyez tout ? Sauf ce petit rien dont Satan lui avait parlé. Il accepte toute la parole à l'exception d'un petit rien. Quel que soit ce petit rien, vous devez accepter toute la parole, le petit rien compris. Vous devez l'accepter dans son intégralité telle qu'elle est écrite. Cela peut vous obliger à refaire de nouveau quelques œuvres du début, mais c'est justement ce que dit la parole. Cela a été le piège de Satan depuis qu'il l'essaya la première fois sur elle. Simplement faire douter d'un petit rien écrit dans la parole. Et cela séparera toujours ces trois catégories de croyants. C'est la parole qui est à la base de cette séparation. Cela s'est passé ainsi dans tous les âges. Et quand Dieu envoie quelqu'un sur la scène, celui-ci identifie clairement la parole. Alors il y a les vrais croyants qui le suivent. Il y a également les incroyants. Oh, ils croient la parole. Aussi longtemps que vous restez dans la parole, ils le croient. Mais quand intervient quelque chose qui ne cadre pas avec ce que eux croient, bien que ce quelque chose ait été identifié par Dieu, alors ils disent, je ne connais rien à ce sujet. C'est un incroyant. Ou bien, suivez-vous dans l'espoir de pouvoir dire à un certain moment, ah ah, ah ah, vous y voici, ayant cru trouver une faille, comme Judas, poignardant quelqu'un dans le dos. Je savais bien que tôt ou tard cela devait arriver. Nous y voilà. Celui-là est un soi-disant croyant. C'est exactement cela. Nous le voyons dans la Bible. Un jour, un petit garçon, ici même dans le Kentucky, qui habitait là-haut dans les montagnes, n'avait jamais vu de miroir dans toute sa vie. Il vint ici à Louisville. On lui avait dit qu'il vivrait avec la sœur de sa mère, qui possédait une très jolie maison ancienne. Quand il entra dans la chambre à coucher, il vit une porte entièrement recouverte de glace, du haut jusqu'en bas. Et quand ce petit ami commença à marcher dans la chambre, il s'arrêta tout à coup. Le petit Johnny voyait un autre petit Johnny juste en face de lui dans le miroir. Il se gratta la tête et l'autre en fit autant. Il se mit à rire et son vis-à-vis riait également. Il sautilla et l'autre faisait de même. Voyez-vous, il s'approcha tout près de la glace car il pensait qu'en face de lui, il y avait un petit camarade qui pourrait jouer avec lui. Il s'avança, il tapota la glace, il se retourna et ses parents l'observaient. Et il dit, « Maman, c'est moi. Maintenant, vous, regardez-vous dans cette glace de la Bible. Lequel êtes-vous? Lequel de ces petites Johnny est-il personnifié en vous? Voyez-vous? Vous êtes l'un d'eux. Un qui se retournera dès qu'il aura trouvé le premier défaut. Ce que vous appelez un défaut, voyez-vous? Contrôlez-le avec la parole et voyez si cela est correct. Si la parole démontre toute chose, alors démontrez toute chose par la parole. Jésus a dit d'agir ainsi. Oui, monsieur, cramponnez-vous à ce qui est bon. C'est exactement ce qu'il nous a dit de faire. Maintenant, regardez dans le miroir de la parole de Dieu dans les âges précédents et voyez dans lequel des trois groupes vous pouvez vous identifier. Réfléchissez. Si vous aviez vécu dans les jours de Noé, dans les jours de Moïse, dans les jours de Jésus, ou dans n'importe quel autre âge, dans lequel de ces trois groupes vous seriez-vous reconnu? Réfléchissez-y ce soir. Et dans les temps présents, dans quelle catégorie vous trouvez-vous? N'éludez pas la question, c'est très important. Notre position actuelle déterminera dans quel groupe vous vous seriez tenu dans ces temps enculés. Maintenant, vous êtes votre propre juge. Prouvez ce que vous êtes. Je m'adresse maintenant au ministre. Dans quel groupe vous seriez-vous trouvé? Quand Jésus fit cette déclaration qui paraissait si difficile à croire pour les 70 disciples, Jésus avait dit cela alors qu'il avait été pleinement identifié comme étant la parole. Voyez-vous? Et cependant, vous n'aviez jamais entendu parler d'une chose pareille, le Fils de l'homme. Qu'auriez-vous dit lorsqu'il affirmait monter aux cieux d'où il était venu? Vous dites, eh bien, je sais où il est né, je connais son papa, je connais sa maman, et maintenant, il dit monter au ciel d'où il est descendu? Cela aurait été un petit peu trop compliqué pour vous, n'est-ce pas, monsieur? Un petit peu trop fort. Vous ne pourriez pas digérer cela. Peut-être en est-il de même pour vous aujourd'hui. Alors, regardez dans le miroir de la parole de Dieu et voyez où vous vous trouvez. Oh, un séducteur d'hommes, n'agissez jamais ainsi. Voyez-vous, vous entrez dans l'une de ces trois catégories. Ce que vous ressentez en vous-même, en cet instant, dans ce tabernacle, ou à l'écoute de cette bande, l'état d'esprit qui sera le vôtre à la fin de cette prédication déterminera quelle est votre position dans l'un de ces trois groupes. Vous saurez exactement où vous en êtes, ou bien vous croyez la parole et vous y conformez, ou bien vous sortez d'ici avant la fin, ou vous tournez le bouton de votre magnétophone pour ne plus rien entendre. Le premier est un croyant authentique, le second un incrédule, un incroyant. Celui-ci, voyez-vous, ne veut pas poursuivre en vue de voir si c'est la vérité ou non. Il a son opinion toute faite. Le troisième écoutera jusqu'au bout dans l'espoir de trouver la faille, la contradiction éventuelle. Celui-là sait ce qu'il est, un soi-disant croyant. Que Dieu nous aide à croire sa parole, à nous y tenir fermement, à être loyal vis-à-vis d'elle et à obéir à cette parole parce que le Seigneur est cette parole. Le croyez-vous? Prions. Cher Père Céleste, comme il est dur en ces jours-ci de dire de telles choses, et de savoir que peut-être des milliers et des dizaines de milliers de personnes écouteront cette bande qui est diffusée dans toute la nation et au travers du monde entier. Mais, Seigneur précieux, tout cela est vrai. C'est tellement vrai que je te prie, Seigneur, de nettoyer mon cœur en tout premier. Ô Seigneur, teste-moi. Éprouve-moi, regarde à moi, Seigneur, je suis faible, je suis fatigué, je suis usé, ma gorge est enrouée, mes lèvres sont sèches comme du parchemin, mon corps est épuisé et il vieillit, il ne me reste plus longtemps à vivre. Seigneur, puisse-t-il s'écouler encore de nombreuses journées avant mon départ? Et maintenant, Père, sonde-moi, et s'il existe en moi quelque chose de mauvais, que je ne connaisse pas. Seigneur, je te demande de me le révéler maintenant, tout simplement, Seigneur. Montre-moi-le. Je suis prêt en ce moment à tout redresser. Je me regarde là dans le miroir de la parole de Dieu. Quelle est ma position? Mon image reflète-t-elle Jésus-Christ? Est-ce cette personne que je vois dans ce miroir? Est-ce que j'y vois l'un des croyants de l'Ancien Testament ou l'un des croyants du Nouveau Testament? Est-ce que j'y vois un soi-disant croyant ou un incroyant qui écoute la parole et qui préfère suivre à la place les directives des dénominations? Est-ce que je me vois moi-même, tel un soi-disant croyant, rôdant de tous côtés pour chercher la faille? Seigneur, si l'on était ainsi, purifie-moi. Que mon cœur soit pur et net, parce que cela, c'est ma vie, Seigneur. Je veux être droit. Je ne veux pas de demi-mesure. S'il existe un chemin qui me permette de tout accomplir réellement, montre-le-moi, Père. Je dois conduire hommes et femmes sur le bon sentier, sinon je serai coupable auprès de ceux que j'aime et de ceux qui m'aiment. Et si ce soir, il m'arrivait de penser qu'une église ou une dénomination était dans la vérité, ou bien que le Conseil mondial des églises était une bonne chose, ou bien que la majorité des gens possèdent la vérité, oh, Seigneur Dieu, aide-moi alors pour être assez humain et assez chrétien pour admettre et reconnaître mon erreur. Que je puisse alors me tenir ici pour envoyer ces gens là où je pense qu'ils doivent aller pour être dans la vérité. Purifie-moi, que je puisse regarder et voir. Quand nous en venons à ces choses-là, Seigneur, aussi loin que mon regard puisse se poser, je constate qu'ils ont l'apparence de la piété. Mais ils renient la parole. Tu peux le leur dire directement, mais cependant ils diront, eh bien, il n'y a aucune différence, Dieu n'exige pas cela de nous. Seigneur, Je crois que tu es le même Jésus. Tu es le même Dieu que tu as toujours été. Tu es toujours Dieu et tu ne changes pas. Je crois que cette Bible est ta parole. Et je crois que toi et ta parole, vous êtes identiques. Je te prie, ô Dieu, de nous donner ton Saint-Esprit pour vivifier la parole, de nous donner le pouvoir vivifiant, cette puissance qui, le jour où cessera la vie et où tu en auras fini avec nous, nous permettra de ressusciter et de nous attirer vers les cieux. Dans les cieux, où nous étions dans les pensées de Dieu dès avant la fondation du monde. Ô Dieu, exauce-nous, pardonne nos péchés, Père. S'il y a ici des hommes ou des femmes qui ne fassent pas partie des croyants authentiques dans la parole, que Dieu purifie leur cœur. Je prie également que Dieu purifie le cœur de ceux qui écouteront cette bande. Purifie-les, Seigneur. Je ne veux pas qu'ils soient perdus. Je te prie, Dieu, pour que tu nous aides pour la compréhension de ce message, afin qu'un aveugle ne conduise pas un autre aveugle. Car il n'existe qu'un moyen pour y parvenir, c'est que les deux aveugles se détournent du mauvais chemin pour y voir clair dans le bon chemin. Et je te prie, Père, d'exaucer notre prière au travers de Jésus-Christ, notre Seigneur. Gardons nos têtes inclinées et nos cœurs ouverts, car maintenant, je vais vous entretenir d'un sujet spécial. Quand j'étais un petit enfant, j'ai eu une vision de l'enfer. Il se peut que je me trompe à ce sujet. Il se peut que ce fût seulement une prémonition. Je ne sais pas. Je me trouvais quelque part. Tout paraissait naturel. Il y a peu de temps, j'ai vu en vision le royaume des élus. Mais quand je vis le royaume des perdus, je me suis écrié, « Ô Dieu, qu'aucune personne ne puisse venir ici !» Il n'existe pas de mots pour décrire l'horreur de ce lieu. Je suis incapable de vous le décrire. Si vous pensiez qu'il existe un enfer rempli de feu et de soufre, cela représenterait un vert pâturage ombragé comparativement aux horreurs qui existent dans ce lieu et à la misère qui s'y trouve. Si je pouvais vous parler de choses qui sont au-delà de toute compréhension humaine, je ne pourrais pas trouver de mots pour vous décrire la place des élus. Quelle paix! On ne meurt jamais, on y reste toujours jeune, on n'y vieillit jamais, on n'y est jamais malade et toujours en bonne santé, aucun péché. Oh, il n'y a aucun moyen de décrire ce lieu béni. Saint Paul a même écrit dans 2 Corinthiens 12:2 que dans le paradis, cet homme entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il a aussi dit, l'œil ne l'a pas vu, l'oreille ne l'a pas entendu. Cela est-il jamais monté dans le cœur de l'homme? Vous ne pouvez absolument pas le comprendre. Il n'y a aucun moyen d'expliquer tout ce que Dieu tient en réserve pour celui qui l'aime. Ce qui est absolument certain, c'est que celui qui a entendu ce message dans cette salle ou sur la bande doit se reconnaître dans l'une de ces trois catégories. Ou bien, nous sommes des croyants véritables, authentiques, et c'est la parole qui établira le test. Si la parole dit une certaine chose et que l'Église proclame le contraire, quel sera votre choix? Regardez-vous dans le miroir de la parole de Dieu et vous verrez dans quelle catégorie vous vous trouvez. Si vous n'appartenez pas au type du croyant authentique, que vous soyez au loin ou dans cet auditoire, puis-je offrir un mot de prière pour vous afin que vous puissiez rejoindre ce groupe? Voulez-vous également le demander à Dieu, vos têtes étant inclinées, vos cœurs humiliés, vos yeux fermés? Vous trouvez devant Dieu. Quelquefois, les gens sont intimidés, ils n'osent même pas lever leurs mains. Ils ont peur de leurs voisins. D'autres se lèvent et disent, « J'ai tort. » Celui qui cache son péché ne prospérera point, mais celui qui confesse son péché obtiendra miséricorde. Voyez-vous, qu'est-ce que le péché? C'est l'incrédulité. L'incrédulité à quoi? À la parole. Maintenant, si vous n'êtes pas dans cette catégorie d'authentiques croyants, peut-être avez-vous lu dans la Bible certains passages que vous ne pouvez pas comprendre avec votre intelligence naturelle. Vous savez que c'est écrit dans la Bible, mais vous ne pouvez pas le comprendre malgré tout votre désir. Vous dites, Ô Dieu, donne-moi la compréhension et je t'obéirai. Voulez-vous lever vos mains et dire, souviens-toi de moi, Seigneur, pendant que nous prions, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est bien. Voyez-vous, pensez-y sincèrement. Y a-t-il dans la Bible un passage que je ne connaisse point? J'ai peur de me trouver dans l'une de ces deux autres catégories. Peut-être vais-je me trouver dans la classe des 70. Il y a justement ici des choses qui sont pour moi assez difficiles à comprendre. Comment Dieu a-t-il pu créer toutes ces choses? Comment peut-il se faire que Jésus puisse toujours être le même? Je ne le comprends pas, mais je veux le comprendre. Je veux le croire. Ô Dieu, viens au secours de mon incrédulité. Je veux être une partie de la parole. Je veux être un participant de la parole. Je veux la posséder en moi. Si ma parole demeure en vous, et si vous demeurez en moi, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Jean 15, 7. Nous savons que cela est vrai. Regardez, si vous demeurez en moi, non pas dedans et dehors, dedans et dehors, si vous demeurez en moi, c'est-à-dire dans la parole, car Jésus est la parole, et si ma parole demeure en vous, alors demandez-moi tout simplement tout ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Nous l'aurons. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé est déjà passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Mais pouvez-vous en premier lieu recevoir la parole? Pouvez-vous recevoir la parole, toute la parole, tout Christ? Christ est la parole loin, il est la parole, loin, Christ signifie loin, la parole loin pour ce jour a été manifestée, rendue manifeste, c'est le Sauveur, le Rédempteur, quand il devait venir, il était cette personne loin qui devait prendre cette place, aujourd'hui il est le Saint-Esprit qui dans les derniers jours brillera comme la lumière du soir, restaurant, renouvelant la foi, qui a été piétiné au travers des dénominations. Le Saint-Esprit condamne les dénominations et ramène chacun à la foi qui était à l'origine, à la foi de la Bible originelle. Cette Bible originelle, telle qu'on doit la croire, avec toutes ses paroles d'origine, sans rien y ajouter, sans rien y retrancher, qui lui fait dire ceci et la place de cela. Lisez la parole telle qu'elle a été écrite. C'est comme cela que vous devez la lire. S'il y a encore quelqu'un qui tout à l'heure n'a pas levé sa main, qui lève la main en disant, « Ô Dieu, souviens-toi de moi. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse, jeune homme. Très bien. Que Dieu te bénisse, mon petit garçon. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Que Dieu vous bénisse, ma sœur qui est à ma droite. Soyez bénis, vous tous, dans le fond. Que Dieu te bénisse, jeune homme. Et vous, sœur, tout là-bas, vous également, frère, qui êtes de l'autre côté, que Dieu vous bénisse tous. Simplement, souviens-toi de moi, Seigneur. Sachez que ce n'est pas vers moi que vous levez votre main, mais c'est vers lui, vers le Seigneur. Vous qui êtes derrière moi, le Seigneur a vu votre main. Même si je l'avais omis, lui l'aurait vu. Il connaît votre cœur. Il sait ce qui bat dans ce cœur. Il connaît votre objectif et vos raisons. Que Dieu vous bénisse, frère. Quelqu'un d'autre? Je veux croire toute la parole. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Le Seigneur voit vos mains. Oui, monsieur, c'est vrai. Il y a des choses que je ne comprends pas, mais je ne veux pas être un incroyant. Bien que je ne le comprenne point, de toute façon, je veux le croire. Je suis prêt à dire, Seigneur Dieu, je suis ici, je veux croire. Viens au secours de mon incrédulité. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Beaucoup de mains se sont levées et d'autres se lèvent encore. Vous dites, frère Branham, cela nous aide-t-il? Levez donc votre main une seule fois, avec un objectif bien déterminé, et alors vous allez réaliser ce que vous devez en penser. Vous reconnaissez qu'il y a un petit quelque chose dans votre vie, voyez-vous? Il y a un petit quelque chose dont vous voudriez bien vous débarrasser, mais néanmoins, c'est toujours là. Vous vous demandez comment cela peut-il se faire. Eh bien, Seigneur, empêche-moi de devenir un Judas. Empêche-moi d'être ici pour écouter le message, afin de détecter si un jour je n'y trouverai pas le petit défaut que j'y attends. Ô Dieu, pends-moi, que je me tienne fidèle à ta parole, voyez-vous? Ou peut-être serais-je simplement un croyant qui pense tout simplement, pourquoi les autres ne parlent-ils pas ainsi, voyez-vous? Je ne veux pas ressembler à ces autres-là, je veux être un croyant authentique. Je vois la parole de Dieu pour cette heure. Je vois Dieu en elle. Ô Seigneur, que je devienne une partie de cette parole, que j'y participe, je veux être une partie d'elle. Que le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, prions. Que chacun prie pour lui-même. Et moi, je vais prier pour vous tous. Voyez-vous, un jour, nous ne serons plus tous réunis ensemble comme nous le sommes ce soir. Certains d'entre nous mourront. Nous ne formerons plus le même groupe. Parmi nous, il y a des personnes âgées, d'autres sont plus jeunes, mais nous savons que nous pouvons mourir à tout âge. Nous sommes appelés à être séparés les uns des autres. Ce problème de la mort doit être réglé. Il ne faut pas la rencontrer par hasard. Vous devez l'affronter quand vous êtes saint d'esprit. Vous dites, « Eh bien, juste avant que je ne meure, je peux la voir venir. » Non, ne faites pas cela. À ce moment-là, il se peut que vous n'ayez pas tous vos esprits. Vous pouvez être tué avant d'être arrivé à la maison dans un accident. Vous pouvez mourir d'une embolie. Nous ignorons ce qui doit nous arriver. Dieu seul le sait. Je ne m'y fie pas. Je suis en train d'observer tous ces gens qui sont en dehors du bâtiment et qui lèvent leurs mains de l'autre côté des fenêtres. Les voyez-vous? Oui, que Dieu vous bénisse. Je veux devenir droit. Je veux devenir droit. Et maintenant, tirons tout cela au clair. En ce moment même, vous pouvez régler la question une fois pour toutes. Si du fond de votre cœur, vous dites sincèrement, « Seigneur Jésus, quoi qu'il en soit, et quoi que puissent penser les autres, ta parole est à la première place dans ma vie. Je la veux dans ma vie. Tu es la parole. » C'est la Bible qui le déclare, et je crois que la Bible est la parole de Dieu. Je sais que les credos et les dogmes qui ont été injectés en elle font maintenant de ce livre maquillé un tissu d'hypocrisie. Ô Dieu, purifie-moi d'une telle ambiance, et que je sois pleinement à toi. Je lève mes mains vers toi, j'élève mon cœur vers toi, j'élève ma voix vers toi, et je t'adresse ma prière. Ô Dieu, aie pitié de moi. Et les mains sont également levées. Seigneur, purifie-moi. Ô Seigneur, de toute incrédulité. Bien qu'il ne me donne pas le pouvoir de marcher avec lui comme Enoch et de ne point mourir, il peut néanmoins me permettre de marcher un après-midi avec lui et d'aller à la maison avec lui. Mais, ô Dieu, je crois profondément que cela arrivera, parce que je sais que dans les derniers jours, il y aura un enlèvement, et cela dans un délai très court. Père, notre calendrier montre qu'il reste encore 36 années pour que le cycle de 2000 ans soit terminé. Tu dois venir avant cette limite, ou alors il n'y aura aucune chair de sauver. Les chronologistes et les spécialistes de ces questions affirment que nous sommes très en avance, de nombreuses années en avance sur ce calendrier, ce qui fait que le temps limite se situerait réellement d'ici 15 à 20 ans. Puisse le Saint-Esprit se manifester et prendre sa place dans notre cœur, nous apportant chaque promesse de Dieu, qu'il nous révèle que sa parole est vraie. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen.